Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir 18h04, vous le savez, c'est le moment de parler football pendant deux heures avec ce soir Jean-Louis Tour qui est parmi nous. Bonsoir mon Jean-Louis.
Bonsoir Dugas, salut tout le monde.
Salut l'ami, bienvenue.
Merci.
Nous accueillons également Eric Dimeco, bonsoir Eric.
Salut Dugas, salut Jean-Louis, salut à tous.
Bienvenue mon poulet, mon Jean-Louis, on a un gros programme.
Ouais, gros programme. Effectivement.
Beaucoup de choses à dire.
Avec un événement dans Team Dugas ce soir à 19h, France-Allemagne 82. On a fait pas mal de matchs historiques dans la mémoire du foot français. On n'a pas fait celui-là qui est peut-être le plus dramatique de l'histoire, donc
qu'on a revu en plus pendant le confinement.
Exactement.
C'est repassé, donc ça nous a bien rafraîchi la mémoire. C'était super.
On va y revenir donc en détail, ce match qui a traumatisé une génération entière. Si vous êtes trop jeune et que vous connaissez pas l'histoire de ce match, restez avec nous. Donc après 19h, on donnera en plus la parole aux Allemands avec Paulo Breitner, notre spécialiste du foot allemand, qui sera là parce qu'on le fait assez peu quand on raconte ce match à chaque fois. À 18h30, le dossier Mbaye Niang. Le joueur n'exclurait pas désormais de rester à Rennes après avoir voulu aller à Marseille. Est-ce qu'il s'y est mal pris, Mbaye Niang? Le débat à 18h30 avec en plus nos infos sur le dossier. Mais on va commencer donc par un serpent de mer dans Team Dugas. La Ligue 1 affaiblit-elle le PSG? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. On se pose la question à cause de deux déclarations qu'on a pu lire ces derniers jours. Javier Pastore, tout d'abord, l'ancien joueur du PSG, qui a déclaré « En Ligue 1, les matchs sont pliés en première période et vous ne continuez pas sur le même rythme pendant 90 minutes. C'est pourtant ce que réclame la Ligue des Champions. En France, tu peux passer un mois entier à jouer des équipes qui t'affaiblissent. » Autre déclaration, hier, celle de Luka Modric, le Ballon d'Or, concernant Kylian Mbappé. Il dit « Il doit rejoindre un championnat où il ne gagne pas les matchs aussi facilement. » Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que, Dugas, la Ligue 1 affaiblit-elle le PSG?
Non, mais je sincèrement, je ne le comprends pas. Et alors, à la rigueur, je veux bien entendre, parce que peut-être que ceux qui le disent ont peut-être raison, mais j'essaie d'entendre et d'écouter les arguments, mais malheureusement, j'en vois pas beaucoup à chaque fois. Il y a souvent d'autres équipes dans d'autres championnats qui ont dominé assez facilement leur compétition nationale et qui ont été loin en Ligue des Champions. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a dû batailler sous l'ère Qatari deux fois pour gagner le titre, et ils ne l'ont pas gagné. C'était face à Montpellier, quand Montpellier a été champion, et Monaco, c'est pas pour ça qu'ils ont été plus loin dans la Ligue des Champions. Donc voilà, je trouve que c'est trop facile de taper sur la Ligue 1, même si je suis le premier à le faire sur sa qualité de jeu. C'est un championnat qui n'est pas spectaculaire, mais qui est parfois difficile. Beaucoup de joueurs étrangers sont venus s'y casser les dents et ont été surpris de la difficulté de ce championnat à s'exprimer, à développer du jeu. Un championnat très très physique, très rude. Alors c'est vrai que parfois les matchs pour le Paris Saint-Germain sont faciles, mais vu l'armada qu'ils ont, le contraire serait étonnant. Aucune équipe de Ligue 1 ne pourrait rivaliser, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Donc je trouve que c'est un petit peu facile, et c'est aussi facilement dédouaner les joueurs qui n'ont pas réussi, à au moins aller en quart de finale.
Oui, c'est une excuse facile.
L'excuse elle est facile parce que justement, quand t'as affaire à un championnat où il y a une forte inégalité, et ben c'est à toi de mettre un petit peu plus de d'intensité dans les matchs, de pas te contenter de mener 2-0 au score et de vouloir en mettre peut-être un quatrième, un cinquième, un sixième quand c'est possible. Voilà, c'est un travail mental qui est à effectuer tous les jours à l'entraînement, qui est certes pas facile, c'est vrai, mais c'est le travail au quotidien du staff, des joueurs, et je pense que c'est trop facile de se servir de ça comme excuse. Et sincèrement, les arguments qui sont à chaque fois déployés, moi, ne me sautent pas aux yeux pour expliquer que si le Paris Saint-Germain n'a jamais fait une demi-finale Ligue des Champions, c'est la faute à la Ligue 1. Je trouve que c'est trop simple comme explication.
Oui, pour aller dans ton sens, avant de donner la parole à Eric, un argument de plus que t'as pas développé, ça a pas empêché le PSG de faire de grands matchs aussi parfois en Ligue des Champions. La victoire contre le Barça aussi, 4-0 à l'aller, c'était dans la même Ligue 1 que celle dans laquelle joue le PSG quand il perd en Ligue des Champions. Eric, qu'en penses-tu, toi? Comment tu te positionnes?
Moi, je pense que ça aide pas. C'est clair que même s'il y a des championnats où il y a des équipes qui dominent peut-être autant que le PSG, j'ai quand même l'impression qu'il y a des matchs un petit peu plus, notamment dans l'intensité, plus disputés qu'en France. Moi, je vais trouver, pour te donner un argument, Dugas, puisque tu en demandes.
Vas-y, Eric.
Tu sais, l'âge d'or de la France dans les Coupes d'Europe, c'est les années 90, celles qu'on a connues. Eh ben tu regardes.
Monaco. Alors qu'un avion décolle à côté de l'Andoum.
Ah, ça, c'est pas moi. Hein.
C'est non, c'est pas un avion privé, excuse-moi. J'ai prêté un copain qui part faire la fête à Saint-Tropez, donc je lui dis tu peux y aller, tu me le rendras demain.
Que si je me souviens bien.
Ça s'appelle Franck Leboeuf. Hein.
De tête vite fait, Monaco doit faire 4 demi-finales de Coupe d'Europe pendant les années 90, une finale. Ouais. Bordeaux, vous faites quoi? Vous faites finale.
À Bordeaux, c'est plus les années 80. Mais il y a la finale de
96. Oui, voilà, il y a la finale quand même. Moi, je pense ces années-là qui sont quand même l'âge d'or du football français, puisque Paris doit faire 3 demi-finales, 4. 2 finales avec une victoire.
Il y a 4 demi de suite au moins du PSG. Ouais.
Voilà, donc preuve que à l'époque le football français était au très haut niveau européen. Ces équipes-là se jouaient toute l'année en championnat et je reste persuadé, puisque c'était des équipes fortes, il n'y avait pas encore Larry Bosman notamment avant 96, et donc les internationaux étaient à Bordeaux, à Paris, à Monaco, à Marseille, de partout, à Auxerre aussi, puisque même Auxerre faisait des campagnes, Nantes aussi bien sûr, voilà, j'essaie d'oublier personne.
Ouais, mais tu veux dire que c'est là où le championnat était le plus fort,
bien sûr,
on est allé le plus loin en Coupe d'Europe.
Bien sûr, c'est quand toutes tes internationaux étaient en France et que ton championnat était disputé,
mais, et que forcément dans ce sens-là qu'est la réflexion. Évidemment, si le championnat est fort, t'as plus de chances d'aller loin en Ligue des Champions. Mais si le championnat est faible, c'est rédhibitoire en Ligue des Champions.
Alors, surtout vu le niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Eric. Alors, tu parles des années 90. Le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, je pense, battrait les équipes de ces années 90. Elles étaient certainement.
Ah bah non, je suis pas d'accord.
Non, tu crois pas?
Moi, je suis même pas sûr qu'ils battent le PSG génération Ricardo, Ginola et toute la compagnie.
Ah,
je suis pas sûr. Moi, je pense que mentalement et physiquement, je pense qu'il se serait fait grave bouger. On en a parlé l'autre jour dans le Moscato Show.
Il y a les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui au Paris Saint-Germain. À l'époque, au Paris Saint-Germain, il y avait d'excellents bons joueurs. Les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Oh ben il y en a un paquet quand même. Thiago Silva fait partie des meilleurs défenseurs du monde.
Ricardo non plus. Non, à l'époque.
T'as un gardien qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions. T'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Cavani, t'as quand même des joueurs. T'as Di Maria, t'as quand même des joueurs de très très haut niveau. Enfin,
la seule question, c'est s'il y a un duel Mbappé Dimeco.
Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. C'est pas le débat. Après là où tu as raison, c'est que même si ton championnat s'est affaibli et même si tu domines ce championnat, il faut être capable, et c'est là justement où je ne suis pas d'accord avec toi sur là quand tu dis les mecs qui sont forts. Mais non, mais les mecs qui sont forts, tu les vois quand ils font le job toutes les semaines, que ce soit facile ou moins. Et moi, je trouve que mentalement, c'est là où peut-être il y a un gros problème. Quand tu domines comme ça, tu dois être capable d'aller chercher 90 minutes à fond pour justement te préparer pour les matchs de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que moi,
j'aurais été capable de le faire sur certains matchs. Donc c'est trop facile de dire parce que 3 jours après, mais sur certains matchs de Ligue des Champions, ils ont été capables de mettre cette intensité-là. Après, ils sont pas capables de la reproduire. Mais c'est leur faute. J'ai envie de dire, ils sont même un peu plus frais. Ils gardent de la fraîcheur parce qu'ils ne sont pas toujours en train de batailler tous les 3 jours. Ils arrivent à garder un peu de fraîcheur.
La réalité des dernières années, c'est même pas un an, c'est même pas 2 ans. C'est bientôt combien maintenant 8 ans.
8, ouais. Ouais.
C'est-à-dire 8 ans qui dominent. Alors même, tu vas me dire, une année se sont fait accrocher et tout et tout. Il n'empêche que sur le championnat.
Montpellier, Monaco.
Mais il n'empêche qu'en 8 ans, quand tu ne sors pas des quarts de finale une seule fois en étant soi-disant aussi fort et en dominant autant ton championnat, ça veut dire qu'il y a un problème récurrent au niveau de ta compétition nationale.
Ou de ta préparation, Eric. Ou peut-être de leur préparation, de leur investissement.
Tu as dit qu'ils étaient plus forts que ma chaîne.
C'est que mentalement, ils n'en mettent pas assez. C'est que dans leur préparation mentale, physique, ils n'en font pas assez.
Et est-ce que quand un week-end sur deux minimum, il faut que tu ailles puiser pour aller gagner des matchs contre des équipes qui sont aussi fortes que toi, est-ce que c'est pas là que tu travailles physiquement 90 minutes au lieu de faire 60 minutes et que mentalement tu travailles ton mental? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas dans l'adversité que tu le travailles, ça?
Ben, c'est à eux de s'imposer une adversité, c'est à eux de travailler sur leur mental, c'est quand ils gagnent 2-0, 3-0 sur un match qui, c'est vrai, est facile, et bien essayer de continuer pour en mettre peut-être 6, pour en mettre 7. Après, il y a un travail mental à faire. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est vrai que ça serait peut-être plus facile que toutes les semaines, par semaine, jouer un gros match. C'est vrai, mais tu peux pas te cacher, à mon avis, derrière ça peut être une part de l'explication. Mais ça peut pas, c'est trop facile de dire que c'est que ça.
J'ai pas l'impression que les interviews et que le débat, c'est ça, c'est pas que ça. Mais moi, pour moi, c'est une des explications de ce qui se passe depuis 8 ans. C'est même une des explications majeures pour moi. Il y a d'autres raisons sur la mentalité des joueurs. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur le cas de, tu dis, cette équipe-là. Je compare le même club avec des générations différentes, hein, c'est-à-dire Paris 90, avec les Ginola, les Ouéa, les Valdo, les Ricardo, les Roche, les Lama, les Bravo, les Guérin, tout ça. Des garçons que tu as connus puisque tu as joué en équipe de France avec eux. Moi, je pense que mentalement, c'était plus fort. Et je pense que si ça joue aujourd'hui contre, je pense que ça se fait bouger, mais grave. Voilà, parce que tu m'enlèveras pas de l'esprit que ça se cultive, cette mentalité d'aller toujours chercher à écraser l'adversaire. Ça se cultive, mais c'est quand même une qualité. Ça se cultive avec un championnat qui est fort, mais c'est une qualité que tu as quand même au départ. C'est-à-dire que si tu es un tendron, eh ben, tu resteras un tendron. Tu vois, voilà, je passe.
Très bien. Du gars, t'as pas été 100% convaincu, mais bon.
Non, mais on est d'accord sur le fond. On est d'accord. C'est une raison. Moi, là où je suis moins d'accord avec Eric, c'est que c'est une des raisons essentielles pour lui. Pour moi, c'est une raison qui est secondaire. Voilà. Pour moi, c'est pas la raison essentielle. Si j'avais un peu plus de professionnalisme, plus de concentration, un peu moins d'anniversaire, un peu moins de carnaval, un peu moins de.
Oui, mais est-ce que c'est pas parce que c'est facile aussi qu'il faut tout ça?
Peut-être.
Ben oui, mais ouais.
Et il y a un autre truc qu'il leur faudrait peut-être, du gars, c'est avoir conscience que ces résultats en Ligue 1 n'ont pas de valeur. Tu vois, parfois on a l'impression, Thomas Tuchel le premier, on l'entend dire, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire, c'est exceptionnel, c'est pas facile de gagner les matchs en Ligue 1, etc. Peut-être aussi que les joueurs, ils entendent ça, ils se disent, bah attendez, vous avez vu comment on se balade en Ligue 1, ça va faire pareil en Ligue des Champions. Alors que s'ils avaient conscience qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur à ces performances en Ligue 1, ils se seraient peut-être moins surpris en Ligue des Champions.
Tu te racontes que, il y a une année, quand ils viennent, l'année où ils viennent au Stade Vélodrome et que Cavani égale sur la fin, un match où il passe à côté au niveau de l'état d'esprit, que les mecs t'expliquent à la fin du match que bon, bah, c'était un match comme les autres pour eux.
Oui, Mbappé avait dit ça, notamment.
Non, pas que. Si lui le dit, c'est que c'est cinéma le vestiaire. Tu vois, c'est si ça, c'est pas. C'est pas un signe de la mentalité qu'il y a dans le vestiaire et dans la mentalité des joueurs qui composent cette équipe-là. C'est quand même, tu vois.
Alors, supporters du PSG 32-16, on va vous donner la parole sur ce débat, évidemment. Juste avant, je voudrais quand même vous relayer nos infos RMC Sport concernant Thiago Silva, qui l'a mauvaise, clairement. L'entourage du joueur a expliqué qu'il avait du mal à comprendre donc que Leonardo refuse de le prolonger. Cette saison, il se sentait au top avant l'arrêt. Il avait faim et même s'il a 35 ans, il se sent très en forme et a du mal à comprendre cette décision.
Oui. Elle est logique, sa déception. Il fait une belle année, il fait une grande année, Thiago Silva. Voilà, il a aussi sa responsabilité dans la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, il fait une belle année. Moi, je la comprends, sa déception. Après, ce que je veux dire, c'est que je comprends sa déception, mais il faut aussi qu'il comprenne la stratégie du club. Il faut respecter.
Pareil, Dugas.
Pardon?
C'est pareil, Dugas. Comment, quand tu es un joueur de très haut niveau avec de grandes ambitions et quand tu es avec une mentalité irréprochable, comment tu peux être déçu qu'à 35 ans, tu ne te prolonges pas quand tu n'es jamais sorti des quarts de finale de Ligue des Champions? Tu ne te remets jamais en cause? Oui. Jamais à un moment donné, tu te dis, bon, ben peut-être que voilà, j'ai fait mon temps.
Mais Eric, c'est exactement ce que je disais juste avant. Il dit, il se sentait très en forme, tout était formidable cette saison.
Oui, ben oui, il était bon, mais en forme, Ligue 1.
Mais voilà, en Ligue 1.
Exactement.
Le retour de Dortmund, il est dans les tribunes. Voilà. L'année, il est sur le terrain.
Voilà. Et puis il recule en Ligue des Champions. Il recule tellement qu'il a peur de se faire prendre dans le dos, alors qu'à Ligue 1, ça ne lui arrive jamais. Ça, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Hein.
Mais tu as raison.
C'est-à-dire, si tu es jamais mis en difficulté quand tu es défenseur, En Ligue 1, comment tu veux avoir les bons réflexes, c'est-à-dire aller chasser haut, aller faire ce que font les grosses équipes qui vont au bout en Ligue des Champions. On a fait le débat ensemble, du gars, sur cette, le fait de reculer dans les grands matchs.
Tu as raison, mais peut-être qu'il se dit, je suis pas là, j'ai l'impression d'être le responsable, on m'accuse à moi, alors qu'il y en avait d'autres. Il y a eu Verratti, il y a eu Marquinhos.
J'espère que Cavani reste pas non plus, tu vois.
Il y a Verratti aussi,
autour de lui.
Après, il faut respecter aussi le choix des clubs. Les stratégies des
bien
clubs.
Sûr. Mais après, pour les joueurs, c'est compliqué. Il a l'impression de faire une grosse saison et il n'a pas la même vision globale que le club aussi.
Tu dois avoir des exemples à Paris, Jean-Louis, parce que moi, je compare toujours cette génération qui a eu des grands résultats européens à Paris. Mais je pense qu'il y a des garçons qui sont partis, qui ont été remerciés alors qu'ils ont apporté énormément. Moi, j'ai l'exemple ici des Waddle, des Papen, des Francescoli, des Monzer.
Ouéa et Ginola quittent le club un an avant la victoire en Coupe des
Vainqueurs. Donc, il n'y a pas de entraîneurs. Il y a même des entraîneurs qui se sont fait virer alors qu'ils étaient quoi, premier au classement ou un truc comme ça au PSG, deuxième. Donc bon,
alors, sur les infos, je voulais quand même vous signaler que Thiago Silva veut quand même finir la saison, jouer la Ligue des Champions, même si au niveau des négociations, il fera aucun cadeau. Hein, il l'a montré aussi avec les histoires salariales pendant l'arrêt. Et puis pour le reste, eh ben, il aimerait bien une dernière aventure en Europe avant peut-être de rentrer jouer au Brésil. Et puis autre info que nous envoie Loïc Tanzi à l'instant concernant donc Tanguy Kouassi, il va s'engager avec le Bayern. Voilà, la décision, donc pour Kouassi.
Là, par contre, il va falloir m'expliquer. Non, mais je ne sais pas comment ça va se passer au Bayern, mais le Bayern, ils ont un effectif impressionnant.
Bon, mais regarde, les jeunes, ils jouent là-bas.
Ouais, mais même Tolisso, même Tolisso, il joue plus.
Même Tolisso est un bon sorti, oui, pour repartir.
Justement,
mais même Hernandez, pour un défenseur.
Il y en a plein qui jouent pas, c'est un club.
Il est champion du monde, peut-être le meilleur défenseur de la Coupe du Monde, et il joue pas au Bayern. C'est pas facile.
Parce qu'il a été blessé aussi, et puis voilà, c'est les péripéties dans le club, mais.
Après, j'ai pas l'impression que le temps de jeu soit la priorité, hein.
Oui, mais attention, je trouve qu'aujourd'hui, le Bayern, justement, a réussi, j'ai l'impression, à se renouveler avec une nouvelle génération qui est en train d'arriver, donc une équipe qui est en train de se mettre en place, où ils sont quand même assez monstrueux, on l'a vu en Ligue des Champions, essayer de t'imposer, peut-être aujourd'hui, dans, à mon avis, une des équipes les meilleures d'Europe, c'est un sacré challenge. Que tu finis au Bayern ou à Liverpool, là c'est compliqué de se faire de la place, parce que c'est des équipes qui sont réglées, qui ont des jeunes joueurs qui sont en place, qui jouent bien, qui ont une
capacité
de jeu forte. Là, ça va être compliqué. Il y a des joueurs plus talentueux de Kouassi que Kouassi. Pour l'instant, je lui souhaite le meilleur à ce garçon qui ne joue pas et qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, voire très peu.
Je vous rappelle ce que nous a expliqué Loïc Tanzi hier. Le critère numéro 1 pour Kouassi, c'était la stabilité du club. L'offre que lui a fait le PSG en termes de temps de jeu et financièrement était supérieure à toutes les autres, mais lui, il trouve qu'au PSG, il n'y a pas assez de stabilité au niveau de la direction, avec les changements de directeur sportif de partout. Là, en Allemagne, au Bayern, même si l'entraîneur change, tu sais que tu as Rummenigge et Salihamidzic à la direction. On sait que Rummenigge va partir en 2021, on sait déjà que c'est Oliver Kahn qui va le remplacer, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est carré au Bayern. Même si après, il y a l'histoire du temps de jeu, oui.
Ouais, je comprends pas cette façon de voir les choses. À son âge, il faut avoir du temps de jeu, et ça me paraît être bien plus important que la stabilité du club. Après, bon, c'est son choix. On verra bien ce que ça donne.
Théo Tim nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Bonsoir Théo Tim. Ah non, de Bordeaux.
Bonsoir. Bonjour à tous.
Salut Théo, bonsoir. Supporter du PSG, Théo ?
Non, de Bordeaux.
De Bordeaux, d'accord, ok.
De Bordeaux.
Tu jures
Je suis totalement d'accord avec toi, du coup, sur tout ce que tu as dit sur Paris. Je pense que ça. Enfin, d'autres clubs sont dans la même situation, avec des rendez-vous en championnat beaucoup moins intenses, avec des équipes beaucoup plus faibles. Et c'est pas du tout une raison valable pour les mauvais résultats en Ligue des Champions depuis tant d'années.
Ce n'est pas une excuse pour ne pas passer les huitièmes de finale. Après, pour ne pas la gagner, c'est autre chose, mais les huitièmes de finale.
Qui comme club?
Oui, toutes les fois où ils se sont fait sortir juste parce qu'ils ont fait. Pour moi, ça s'appelle ça des fautes professionnelles. Les matchs retour, c'était des fautes professionnelles carrément. C'était pas
un problème d'intensité, ouais.
Quel club, puisque tu as dit il y en a plein comme ça, c'est où alors? Explique comment.
Mais regardez le Real, juste, ils se mettent à jouer le Real en février. Pour la Ligue des Champions.
Ah donc tu es en train de m'expliquer que le championnat d'Espagne n'est pas relevé et que le Real n'a pas des gros matchs à jouer. C'est ce que tu es en train de m'expliquer là quand même.
Mais attends, des gros matchs, mais on parle de Séville et Valence du coup.
Et comment tu le regardes pas le championnat espagnol, tu regardes pas l'Atlético, tu regardes pas le Barça, tu regardes pas le Real justement cette année, tu regardes pas le Séville cette année.
Mais le le Barça au match retour contre le PSG, quand ils font la remontada, ils ont, le week-end d'avant, ils ont pas joué contre un très gros club, mais ils sont quand même venus, ils se sont dit, on va le faire. Puis ils l'ont fait. Enfin, mentalement, les gens, cette équipe-là, elles sont prêtes pour la Ligue des Champions. Pour les gros matchs.
Et donc toi tu penses que ce qui se passe en championnat toutes les semaines, dans un championnat où toutes les équipes jouent, où techniquement c'est du haut niveau, tu penses que ça sert pas le Barça et le Real pour flamber en Ligue des Champions, toi? Voir l'Atlético d'ailleurs, puisque c'est les trois.
Mais c'est pas la raison principale, ça fait partie des raisons, mais c'est pas la plus importante.
D'accord, et c'est laquelle la plus importante pour toi du coup?
La plus importante, c'est la motivation. C'est ce qu'ils ont envie de faire en Ligue des Champions.
Ah, donc c'est pas motivé en Ligue des Champions. Donc le mec qui vient, c'est un match de patronage.
Ben, on a l'impression qu'ils sont pas motivés en Ligue des Champions quand ils font les matchs qu'ils ont fait en match retour sur toutes les compétitions là, depuis 3-4 ans en Ligue des Champions quand même.
Théo, parle sereinement, ne t'inquiète pas, interrogation écrite avec le proviseur.
Non, mais non, mais j'essaie de comprendre le raisonnement. Après, il me paraît pose des questions.
Mais sincèrement, il y a un match qui est un des matchs les plus proches où ça a été le cas. Souviens-toi le match au Real Madrid, le match pourri qu'ils font, sans intensité, sans envie, sans rien du tout. C'est pas la faute de la Ligue 1, ça fait partie des matchs de poule. Tu vas jouer à Bernabéu, c'est un match extraordinaire. Tout le monde attend, ils se font bouger, c'est quand même pas la faute à la Ligue 1 si au mois d'octobre ou c'était même avant un match aussi important tu passes autant à côté, tu t'es pas dans ton match, t'es pas dans le combat, t'es pas dans l'envie.
Je suis pas d'accord avec vous.
C'est la faute à Amiens, c'est la faute à Toulouse, c'est la faute à tout ça.
Tu vois, tu caricatures le truc. Je te dis juste que sur des matchs comme ça où l'adversaire est capable de monter de 1 voire 2 crans parce que eux en championnat très régulièrement ils ont en face d'eux des équipes qui leur posent des gros problèmes, une équipe comme Paris qui, elle, n'est pas obligée de monter d'un cran, ne serait-ce que d'un cran en Ligue 1, la marche est trop haute, ils n'y arrivent pas, c'est tout. C'est là où, justement, je comprends pas votre raisonnement.
Parce que c'est pas normal, du coup.
Mais pourtant, avant Dortmund, ils ont eu un match compliqué en championnat, ils ont fait 4-4 à Amiens. Et ils ont perdu après à Dortmund, alors qu'ils ont été poussés
Pastore, il a été blessé pendant 4 ans. Pastore, il a été blessé pendant 4 ans au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que l'intensité de la Ligue des Champions était trop élevée.
De la Ligue 1, oui. De la Ligue 1.
Mais moi je pense quand même qu'il faut écouter les mecs quand ils parlent quand même quoi. Moi je trouve que vous balayez cet argument là un petit peu trop facilement. Je trouve on est tous d'accord que c'est pas la seule raison. Pour moi c'est une des raisons essentielle.
Ils la gagneront jamais alors, Eric, parce que ça changera jamais la Ligue 1.
On abandonne tout.
Le Paris Saint-Germain, ils gagneront jamais la Ligue des Champions. C'est terminé. Allez. Même pas une demi-finale, rien, allez, c'est réglé. On va passer à autre chose.
Mais en tout cas, on a bien vu les points de vue et ça fait marrer Théo Team. Merci d'être venu au 32-16, en tout cas.
Pas de souci.
Salut Théo Team, à bientôt.
Il m'avait manqué ce duo-là. Juste vous deux, là, Eric Dugas, là, à se renifler, à se retourner autour et tout en disant on prend des précautions.
Ça
explose.
J'ai compris que c'était pas la. Mais j'ai pas compris les raisons, du coup. Parce que moi, si on me dit c'est parce que les mecs, ils ont pas le moral, oui. Le mental, pas le moral.
L'exigence.
C'est vrai qu'ils sont pas tous internationaux. C'est vrai qu'ils flamment pas leur équipe nationale pour la plupart. C'est vrai que non, c'est les petits joueurs qui découvrent la Ligue des Champions régulièrement.
Ouais, c'est vrai, Amiens, Toulouse, c'est vraiment c'est des points. Ils servent à rien. Faut les virer de la Ligue. Allez, c'est pas compliqué.
Mais dis-moi, alors juste toi, quand tu me fais les débriefs les lundis de la Ligue 1, et là, donc tu es en train de nous vendre des monstres. C'est-à-dire que tu les regardes les matchs de Ligue 1, parce que moi, je veux bien. On essaie de nous expliquer que ailleurs aussi il y a des petites équipes et ailleurs aussi il y a des matchs de purge. Mais je fais la Première Ligue depuis 3 ans maintenant. Je regarde un peu les matchs ailleurs. Mais même les équipes qui sont moyennes en Angleterre, tu as vu le rythme qu'elles mettent dans les matchs.
Parce que tu t'es souvent plein de l'intensité en Ligue 1. On va en rester là-bas.
Moi, c'est la technique. Moi, je me suis plein. Pas forcément l'intensité. C'est les pieds tordus.
Le rythme, tu nous en as déjà parlé souvent.
Trop de pieds tordus. Trop, beaucoup trop.
Oui, mais t'as toujours dit que les pieds tordus, à un moment donné, tu peux rien.
Quand t'as les pieds tordus, t'essaies un peu de courir.
J'écoute ce que tu dis.
Ce qu'il faut faire, c'est moi, je serai les.
Tu te souviens de ce
Je me mettrai en sparring partenaire. C'est-à-dire que je ferai tout. Je me dirai, je vais faire un match pour mettre beaucoup d'intensité, pour servir le Paris Saint-Germain. Comme ça va leur permettre d'aller loin en Ligue des Champions. Non, mais tu as encore le raisonnement. J'ai trouvé ça extraordinaire.
On va arrêter. Dans un instant, Mbaye Niang, S'y est-il mal pris pour rejoindre l'OM? On va revenir en détail sur ses prises de position et vous donner les infos RMC Sport sur ce dossier. À tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h33, Tim Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Eric Dimeco. Bon Jean-Louis, c'est le moment de parler de Mbaye Niang qui va peut-être rester du côté de Rennes.
Exactement, et puis il y aura le journal moyen à 18h45 avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut les copains. Adil Rami en grande forme. Il y a des jours où Adil Rami n'est pas en forme, là il est en forme et il fait son retour dans le journal moyen. Et j'ai un inédit Manu Petit dans la grande collection des Manu, sorti hier soir, une petite nouveauté de Manu.
Mais dans Tim Dugas ?
Non, précisément dans le podcast.
Ah oui, oui,
Paris j'ai entendu. Saint-Germain. Oui.
Très bien.
Une sorte de fou. Voilà.
Très bien. Parfait, merci à Adrien. À tout à l'heure pour le journal moyen. Mohamed Bouafsi nous rejoint. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Dugas, bonsoir Eric.
Salut.
Le dossier Mbaye Niang tout de suite donc avec toi. Puisque donc lui qui avait fait une déclaration d'amour envers l'OM, ensuite on a appris qu'il discutait, enfin en tout cas que le club discutait avec un club du Qatar. Bon, tu vas nous dire si c'est vrai ou pas. Et hier on l'a finalement entendu ou lu en train de dire serais-tu contre poursuivre l'aventure à Rennes? Il a répondu: j'ai jamais dit ça, au contraire même. Alors, qu'en est-il donc sur Mbaye Niang?
Alors, le point à date, comme on dit très souvent dans le football, messieurs, c'est très simple, c'est qu'il n'y a absolument rien de neuf. En clair, aucune discussion n'a démarré entre l'OM. Non mais Dugas, tu sais, j'ai remarqué depuis quelques semaines et quelques années de ma petite expérience dans le football, c'est qu'il faut souvent répéter, faut souvent redire les choses aux gens parce qu'on a souvent les mêmes questions et je peux comprendre parfois que les auditeurs ne puissent pas être tout le temps dans Tim Dugas ou que les followers sur Internet ou sur les réseaux sociaux ne puissent pas être tout le temps sur leur téléphone portable. Donc il faut parfois redonner les temps de passage, j'ai envie de dire, d'une actualité. Et là, il n'y a aucune discussion entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, même pas un appel ou une offre concrète. Il ne se passe rien entre les deux clubs. Le Stade Rennais a désormais des intérêts concrets de clubs anglais et même un club au Qatar. Ce club, il s'agit d'Al Dwail. Rennes demande au moins 20 millions d'euros pour le joueur. Le joueur, lui, n'a pas avancé dans les discussions avec un club plus particulier aussi. On sait que le Qatar a beaucoup d'argent. Le Qatar est intéressé par son profil. On sait qu'il y a beaucoup de clubs aussi anglais qui l'aiment bien comme Watford, Everton ou Tottenham. Donc voilà, pour l'instant, la situation, elle est comme ça. Et il faut rappeler aussi aux supporters de l'Olympique de Marseille que Marseille ne peut pas sortir 20 millions d'euros le 16 juin de son portefeuille parce que Marseille ne les a pas et que Marseille doit vendre d'abord avant de pouvoir bouger sur plusieurs opérations.
Est-ce que Dugas, quelle que soit l'issue de cette affaire, il n'a pas agi de la pierre des façons possibles, Mbaye Niang?
Non, mais je sais pas. Après, qu'est-ce qu'il a dit exactement dans tout ce que l'on entend? On sait pas vraiment non plus. Qu'est-ce qui est de l'investigation d'un journaliste? Qu'est-ce qui est de d'une écoute dans des coulisses? On sait pas exactement ce qui a été dit. Moi, le conseil que j'ai envie de lui donner au gamin, c'était toi. Tu vas pas à chaque fois donner ton avis. Chaque fois qu'un journaliste va te poser la question sur le Qatar, Marseille, l'Angleterre, Rennes ou quoi, tu vas chaque fois donner ton avis. Arrête. Voilà. Pour l'instant, rien n'est fait. Tu dis, je suis très bien à Rennes. C'est pas le sujet. Enfin, des phrases bateau, il y en a. Au bout d'un moment, il faut qu'il arrête de s'exposer comme ça.
L'OM m'intéresse, hein, ça, il l'a dit clairement. Hein.
Il a même pas à se prononcer sur ça.
À l'arrivée, il reste à Rennes, il sera quand même dans une position délicate vis-à-vis des supporters rennais.
Mais c'est qu'il a qu'à dire aussi, le Real Madrid m'intéresse aussi. Il sait aussi, son agent sait aussi que Marseille, aujourd'hui, n'a pas 20 millions d'euros à donner. On sait qu'ils ont des problèmes financiers, donc ce ne sera pas possible. Au bout d'un moment, c'est à toi de sentir un peu. Tu sais, la période du mercato, c'est une période compliquée, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. C'est difficile pour le joueur aussi, qui a peut-être envie de partir, qui a envie de rester, j'en sais rien, ou envie d'aller ailleurs, je sais pas, qui se dit, je vais gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois mon salaire. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. T'as la famille, t'as la pression, t'as ton fils, l'école, le site. Enfin, il y a plein de choses. Mais il faut garder raison, garde du calme, laisse travailler tes agents, laisse faire ton club, et puis au bout d'un moment, de toute façon, personne t'obligera à signer là où t'as pas envie de signer. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'il garde. C'est un garçon qui n'a pas brillé ces dernières années par sa communication, par sa régularité aussi dans le jeu. Ça a été compliqué. Il a fait beaucoup de clubs. Il sait ce que c'est que d'être baladé à droite à gauche, d'être prêté à droite à gauche. Sois tranquille, sois serein. Je trouve qu'il s'y prend mal. Alors j'espère que ça ne va rien remettre en cause pour le gamin. Mais arrête de t'exprimer à tout bout de champ. Ça n'a aucune valeur d'être présent tous les jours dans la presse, dans l'équipe ou dans les médias pour dire je vais ci, je vais là. Et à l'arrivée, tu vas rester à Rennes, tu vas la queue entre les jambes, tu vas passer pour un débile. Donc arrête, ça sert à rien. Tu feras tes déclarations le jour où tu auras signé dans un club et là tu pourras faire toutes les déclarations d'amour que tu veux. Pour l'instant, c'est ici prend mal, à mon avis.
Eric, tu es d'accord avec Dugas?
Pas mieux.
Je suis pas habitué à ça, moi.
Non, mais là, on est dans une période un peu particulière. En plus, on l'a vu à Marseille. Donc, de suite, les gens ont fantasmé. Alors que, d'après ce que j'ai compris, il a une attache à Marseille. Il est venu, même aussi pour les courses, d'après ce que j'ai compris. Voilà,
je vais tout dire. Je te laisse finir, Eric. Je vais te donner toutes les informations.
Pas les supermarchés.
Pas uniquement.
Attention, les supermarchés sont très bien.
Il adore aller à Paris,
il a pénurie très vite. Hein, il n'y avait plus de pâtes dans les rayons.
Il y en a qui sont partis les acheter au Brésil. Lui, il est venu à Marseille.
Le centre commercial à côté de l'aéroport, comment ça s'appelle?
Plan de campagne.
Il adore faire les courses à plan de campagne, c'est pour ça.
Très bien.
Non, mais plus sérieusement, pour essayer un peu de donner des informations pour le défendre, il faut savoir que sa compagne, sa femme, est marseillaise. Donc tous ses amis sont originaires de Marseille. Il est passé à Marseille, il a passé quelques jours, il était il y a encore quelques jours à Marseille pour être avec sa compagne et ses enfants. Et on connaît bien l'environnement marseillais. Il a été manger avec Bounassar, qui est l'un de ses amis, par exemple. Ils ont posté une story sur Instagram tout de suite. Il y a eu, comme par hasard, 150 supporters qui l'ont croisé et qui ont dit il m'a dit qu'il allait signer à l'Olympique de Marseille, ce qui n'était pas le cas. Il a juste passé quelques jours dans la région marseillaise.
Qu'on est menteur à Marseille, c'est pas beau.
On n'est pas menteur, mais on exagère un petit peu parfois la situation. Et donc, comme par hasard, il y a 350 personnes qui l'ont croisé en quelques jours sur Marseille. Il a toujours rêvé de jouer à l'Olympique de Marseille depuis qu'il était tout jeune. Aujourd'hui, il y a cette situation-là. Du gars, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des éléments, sa famille, ses proches qui sont là-bas. Lui a passé quelques jours là-bas, donc il a pas caché son amour pour l'OM. Il a été peut-être maladroit, mais il sera à la reprise. Il sera à la reprise du Stade Rennais. Il sera au centre d'entraînement. Et ça, il y a pas de souci. Après, c'est vrai que dans le mercato, on pose des questions et parfois on peut être maladroit.
Mais c'est aussi ça le travail des agents. Au bout d'un moment, il faut entourer, il faut encadrer, même si c'est plus un gamin, Niang. Mais au bout d'un moment, c'est là qu'il faut être, à l'écoute aussi de ce que c'est que la communication, qu'est-ce que ça représente. Et puis il y en a qui balancent. Ta reine qui va balancer pour faire monter peut-être des fausses informations, pour faire monter le prix du joueur. Marseille qui va dire qu'il y a au bout d'un moment peut-être qu'ils sont pas intéressés pour faire baisser le prix du joueur. Là, tu rentres dans un espèce de jeu de dupe, de jeu de et c'est la règle du jeu, c'est le commerce, c'est l'offre et la demande. Donc au bout d'un moment, le gamin, il doit pas se mettre là-dedans et son agent, il doit le raisonner. Ça sert à rien autrement. Il va avoir des ascenseurs émotionnels et c'est moche pour lui. À l'arrivée, il va faire la préparation, il va se blesser. Le premier match de préparation, il va se blesser parce qu'il sera tellement pris la tête à vouloir rester, à vouloir partir ici et là que ça va mal se passer.
Après, quand tu regardes de sa carrière, il a pas l'air de se prendre trop la tête, quoi, tu vois.
Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il a changé de club tous les 6 mois aussi.
Oui,
mais
voilà. C'est un choix, mais j'ai pas l'impression qu'il soit traumatisé par rapport à sa carrière ou à ce qu'il fait dans sa carrière. Voilà. Et puis ensuite, après, des fois, tu subis aussi ce qu'on dit sur toi.
Pour ça qu'il faut qu'il laisse les autres parler à sa place, mais qu'il lui ne
s'est pas beaucoup parlé, lui. Ouais. Il a beaucoup parlé, mon
gars. Non, il a parlé. Il a parlé deux fois. Il a accordé une interview au CFC.
Deux fois, c'est deux fois de trop.
Quand les mecs parlent de mercato, il faut qu'ils parlent.
Il a accordé une interview au CFC où il a dit que Marseille, il aimerait jouer un jour là-bas, ce qu'a fait Christophe Galtier par exemple ce week-end, et il a parler, ça c'est vrai, et ça du gars on peut trouver ça maladroit, je te rejoins, c'est vrai qu'il a fait un Instagram live et il a répondu à un Instagram live il y a quelques jours où il a dit Marseille ça me plairait, mais il a tout de suite corrigé quelques jours après en disant qu'il allait être à Rennes et qu'il serait heureux de continuer à Rennes aussi.
Mohamed,
il fait ce qu'il veut, le gamin, qui continue à s'exprimer tous les semaines, ça, si ça l'amuse, si ça le rend très bien, voilà.
Non, pas du tout, mais c'est un problème.
Jean-Louis me demande mon avis, c'est un sujet, je dis ce que je pense, après s'il a envie de s'exprimer. Eric trouve ça très bien. Toi tu dis que c'est pas très grave non plus, qu'il a été maladroit.
Non, moi je dis que c'est maladroit.
Mais qui continue avec ses maladresses, ce n'est que des maladresses, il n'y a rien de grave non plus, on est bien d'accord.
Moi je trouve quand même c'est très très grave ce qui se passe.
Merci Mohamed. Moi j'aurais adoré voir les réseaux sociaux à l'époque de Duga, d'Eric, etc. Je pense qu'on aurait eu des perles magnifiques.
Surtout, on aurait eu des photos de ce qui se passait parfois.
Heureusement, parce que c'est vrai que là, les réseaux sociaux alimentent aussi les fantasmes en ce moment, surtout pendant le confinement. Là. Les mecs, ils se filmaient.
Tous les jours, des gens se filmaient pour faire des lives.
Je vais pas plus loin. Donc, les mecs, c'est tout.
Comment pas.
Merci Mohamed. Bonne soirée. Merci monsieur. Bonne soirée. Le journal du moyen. Adrien Aigouin, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h48, Tim Dugas continue avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour. Mon Jean-Louis, à partir de 19h, nous allons revenir sur un match de légende, le match de France-Allemagne, la Coupe du Monde en 82.
Exactement, tous les détails de cette rencontre juste après 19h. Tout de suite, c'est le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas, aujourd'hui sur RMC, Manu Petit nous fera un petit coucou avec une petite nouveauté inédite pour nous, pour le journal moyen. Adil Rami nous parle musique, et puis le retour vers le futur, j'aime bien ça, comme le France 82. Aujourd'hui, le jour où le petit cœur d'Eric Dimeco a pleuré. Saigné, il était triste, le petit Cruyff. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC?
Non, j'ai pas ressorti ça.
Non, pas ça, Eric. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. C'est le 338e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas et pas du sport.
En direct de la rédaction d'RMC Sport,
c'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
J'ai un nouveau Manu, rapide. Manu Petit hier sur RMC nous parle des scouts du Paris Saint-Germain, les membres du club qui observent les joueurs dans les autres clubs chez les jeunes.
Les scouts du Paris Saint-Germain, pour me dire le PSG va absolument que tu signes dans l'académie, dans ma tête je me dis ouais, mais combien de joueurs issus de l'académie ont pu faire leur trou au soleil au sein de l'équipe 1?
Le fameux trou au soleil bien connu, merci.
C'est Manu. Le trou au soleil. La 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 la.
Sans transition, on reste en musique, c'est l'instant d'Idrami.
Ouais, c'est pareil. Tu n'es pas content de me voir?
J'adore, tu fais le show.
Ah, ton clown alors.
Adil Rami, le copain de Tim Dugas, copain d'RMC, a publié une vidéo sur Instagram. Vidéo dans sa voiture, dans laquelle il écoute de la musique. Et moi, avant d'écouter, avant de déclencher le son, je me suis dit, comme beaucoup de joueurs de foot, il doit écouter DJ Snake. Peut-être Us l'enfoiré. Je sais que Jean-Louis, tu es fan toi. Ou bien Us l'enfoiré. Ou bien Gradur. Ça, c'est le chanteur préféré de Dugas. Ouais. Mais non.
Ils reviennent au blind test, hein, ces gens-là.
Mais oui, parfois. Oui. Us l'enfoiré. Il était candidat à la chanson de l'année chez Nikos Aliagas. Écoutez, surprise, Adil est avec donc un copain à lui dans la voiture et il écoute ça. Il est à fond.
Johnny.
Et oui, Adil Rami dans sa voiture. Écoute, du Johnny Hallyday, puisqu'hier, Johnny aurait fêté ses 77 ans. Adil assume totalement.
Hey, je te jure, moi, j'aime trop écouter du Johnny. J'écoute de tout, mais tout. Commencez pas à me dire, ouais, mais c'est quoi ce son que t'écoutes?
Voilà.
Tu dis des bêtises.
Il assume.
Écoute tes paroles. Écoute les chansons qu'il fait, le rock'n'roll là, qui vient en toi, ou allumer le feu, là, t'as envie de tout péter. C'était pas toi tout ça, putain.
Il est en forme, il écoute du Johnny, voilà, il rend hommage à Johnny.
Quand il écoutera Osiris dans la voiture là, oh là là, quelle folie ce sera.
Il se met même, il n'y a pas que le rock chez Johnny, il y a du blues, et il aime le blues, Adil, dans sa voiture. Il chante.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues.
Adil Rami. Pour Adil Rami, il annonce la couleur carrément. Hier, c'était une journée Johnny.
Ah ouais, aujourd'hui, ça va être du Johnny, Johnny, Johnny. Aujourd'hui, c'est Johnny. Ça me chauffe. Je laisse le blues rentrer en moi, le rock'n'roll. T'as compris?
Eh oui, on a compris.
Point, barre, c'est tout.
Et voilà, c'est reparti. Il poursuit son chemin.
C'est d'ailleurs, bien, il faut tout écouter,
oui,
dans la vie.
Et puis il s'éclate. Et puis il révèle, je sais pas si vous l'a dit dans cette même vidéo, qu'il va sortir un livre, Adil Rami, sur lui, sur sa vie. Et il annonce dans la vidéo, il dit c'est sans filtre. Donc à surveiller, peut-être l'occasion de le recevoir prochainement.
Bien sûr, il est toujours le bienvenu.
Eh oui, sans transition, elle nous manque. Ah oui, la Ligue des Champions nous manque. Elle manque aux joueurs, c'est plutôt rassurant. Du gars, je t'entends souvent dire les joueurs s'intéressent plus vraiment au foot. Il y en a un qui est en manque de foot, Lucas Moura, le Brésilien de Tottenham. Lucas a publié une vidéo sur Instagram. Alors dans cette vidéo, on le voit vivre au quotidien avec un ballon. Donc il a mis cette musique là, et dans cette vidéo on le voit avec ce ballon. Il lave les dents du ballon. Quand il est à table, il fait le manger le ballon à côté de lui. Quand il joue aux cartes, il joue aux cartes avec ce ballon de foot. Il dort avec ce ballon. Est-ce que tu as une idée d'où vient ce ballon du gars? Toi, Eric, je sais que tu sais.
Oui. Non.
C'est le ballon du match. D'un match qui a eu lieu le 8 mai 2019.
Oui, il le sait, du gars. Il l'avait pronostiqué.
Oui. Du gars, tu avais annoncé son triplé à Lucas. Demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Ajax, Amsterdam, Tottenham. 3-2 pour les Anglais qualifiés. Et donc, triplé, hat-trick de Lucas qui a gardé le ballon. Qui vit donc avec le ballon, qui était très attaché à lui. Et je voulais revenir sur ce match. C'est une histoire qui a blessé un membre de la Dream Team. puisqu'il y a un an, celui qui petit garçon au club de Robion était surnommé le petit Cruyff, s'est pris d'amour pour cette jeune équipe de l'Ajax. Vous vous souvenez, il y a un an?
Quelle histoire d'amour incroyable.
L'Ajax par-ci, l'Ajax par-là, regardez, ils sont tout jeunes, ils sont énormes. Lors du quart de finale, il se qualifie, je crois, à la Juve, Eric, c'est ça. Hein. Eric est en larmes, il nous offre sa tirade historique, Eric Dimeco sur RMC Sport.
Puis c'est plus des gamins maintenant. Hein. Oui. Ce sont des messieurs.
Des jeunes adultes.
Ah non, des messieurs. Bravo messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes.
Lui, est-ce que c'est nul?
Oui, des grands hommes. Un an après, ça
c'est
fait
gênant.
Mal.
Ah
ouais, c'est aussi
gênant. Autant il y a un an, ça nous fait rire.
Ouais. Sorti du contexte, c'est quand même gênant, en effet.
Ouais. Même en vrai, c'était gênant aussi. Hein,
ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais.
Et donc, ouais, bon, après, l'Eric vivait son rêve de petit garçon. Le petit Cruyff était heureux, il pensait à sa jeunesse.
C'est surtout qu'il nous régalait, tu rigoles.
Mais lors de la demi-finale, sur le troisième but de Lucas, qui élimine l'Ajax, c'est sans montage. Écoutez la détresse du petit Cruyff sur le but de Lucas.
Hey, il faut arrêter là, je suis vieux moi, je peux y laisser mon cœur moi sur un truc comme ça là.
Les dernières secondes, le ballon de Sissoko vers Llorente, c'est maintenant ou jamais. Tottenham, Dele Alli vers Lucas.
Non, c'est pas possible. C'est pas vrai ce qu'il a fait, Lucas.
Ils sont plus amoureux.
Qui les envoie en finale.
Mais ça, c'est génial.
Lucas, c'est le cœur qui parlait, Eric. Le nom qui sort au début, c'est ton équipe qui est sortie là. C'est l'Ajax qui est sortie.
Ouais, mais après je reviens vite sur le but de Lucas parce que même il fait tripler, il les amène en finale. Mais sur le coup, je suis placé dans l'axe, je vois le ballon partir avant qu'il rentre dans les filets. J'y crois pas quoi. J'y crois pas parce que c'est tellement cruel pour.
Tu n'y crois pas, mais tu le sens venir dans les minutes qui précèdent. Tu dis ça sent mauvais, Jérôme. Ça sent mauvais. C'était l'histoire du petit Cruyff de Robion.
T'as gote de cette finale, Ajax. Ajax Liverpool comme elle aurait été belle.
Au lieu de ça, on s'est fait
match de première ligue comme on a fait.
Un mauvais match de première ligue en plus. Hein, c'était pas dingue.
Merci Adrien.
À demain.
Merci Eric pour toute cette bonne humeur.
Ciao ciao les amis.
Bonne humeur. C'était génial.
Mais oui, c'est bonne humeur. Oh.
Bien sûr, on s'est régalé. À lundi prochain.
J'ose même pas imaginer quand il est en colère à la maison. Oh le rôle. Même à l'auditeur, il a sauté à la gorge.
Non mais surtout, il avait l'impression de lui parler normalement alors qu'il l'a agressé de questions.
Il sait même plus parler normalement.
Je pose des questions, j'ai fait le boulot du gars, il fait pas son boulot du gars.
Bah tiens, quoi, où c'est, soit il se fait pas chier, soit il me saute à la gorge. Moi, soit il saute à la gorge de l'auditeur.
Soit des fois les deux. Il a été gentil avec l'auditeur, c'est ça qu'il a pas compris.
Moi, il est adorable.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Oui, mais il voit pas le problème, je pense.
Ah non.
Allez, merci Eric, bonne soirée. On revient dans un instant avec Daniel Riolo, coach Courbis, Julien Cazard, Paulo Breitner. Il fallait tout ce monde là pour refaire France-Allemagne 82. À tout de suite.
RMC 18h-20h Tim Dugas. RMC 18h-20h Tim Dugas. Jean-Louis Tour. Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h02, c'est reparti pour la deuxième heure de Team Dugas avec Jean-Louis Tour, toujours là,
mon Jean-Louis.
Éric Dimeco est parti.
Oui,
tant mieux, ça nous fera du repos et des vacances.
Ouais,
merci beaucoup. Et
d'autres personnes quand même.
Oui, mais bon. Oui, mais ouais, qui sont
plus bienveillants.
Qui ont du caractère, mais qui sont moins fatigués, lui. Il faut qu'il retourne en confinement, le pauvre. C'est fou, ça. Nous accueillons en enfilade Julien Cazard, Daniel Riolo et Roland Courbis. Bonsoir, voilà. Messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut les amis.
Salut Roland.
Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est que plus j'écoute Team Dugas, plus je suis d'accord avec Dimeco. Alors, c'est pas forcément bon signe. Hein. Je pense que je suis fatigué.
J'allais embrayer Julien en disant je regrette de vous dire que ce que disait Eric tout à l'heure était proche de la réalité absolue.
Oui, alors après, c'était pas un débat de fond, notre réflexion à l'instant sur Eric. C'est juste qu'il était très agressif.
Non, mais j'ai entendu Christophe et nier l'importance de l'adversité quand tu fais de la compétition. Je suis content de l'apprendre parce que comme j'ai des tournois de tennis fin juin, je vais pouvoir continuer à m'entraîner avec mon fils, comme ça je serai prêt.
Ouais,
je vais m'entraîner avec lui, parce que l'adversité n'est pas importante finalement.
Ça n'est pas qui t'appelle mon fils. Hein.
Ouais.
Non, mais juste pour ceux qui n'ont pas suivi, le débat c'était à 18h. La
si l'adversité
n'est
pas étonnante et pas importante.
On rappelle le débat. La Ligue 1 affaiblit-elle le PSG? Voilà,
on n'a jamais dit que ce n'était pas important, Daniel. On a dit que c'était pas. Enfin, j'ai dit, pardon, qu'à mon avis, c'était pas le plus important et que c'était une excuse facile.
C'était pas rédhibitoire, que ça n'empêchait pas de gagner.
Exactement.
Mais je crois qu'Eric a précisé que c'était un élément, et je dis la même chose depuis des années. Ouais. C'est un élément, et je
au
pense
début, il commence toujours comme ça, et puis après il te saute à la gorge, et il arrive, l'auditeur il lui saute à la gorge aussi. Et
c'est un élément de plus en plus important, mais l'adversité, c'est.
Pourquoi c'est de plus en plus important?
Mais c'est parce que la compétitivité d'un championnat, c'est.
Et il y a 4 ans, c'était pas le cas.
Bien sûr.
Le problème, c'est que la Ligue 1, s'affaisse d'année en année. Vous êtes au courant, vous suivez l'actualité. Les joueurs
ça fait 10 ans qu'elle est nulle.
Le niveau ne fait que baisser d'année après année, puisque il y a de plus en plus de joueurs qui partent. On en est à faire jouer des mecs qui auraient même pas eu le niveau Ligue 2 il y a 20 ans en Ligue 1.
C'est vrai que quand j'ai regardé le match retour du Barça, regardé le match contre Manchester, que j'ai regardé Lo Celso en 6, c'est vrai que tout ça c'était la cause de l'élimination.
De la Ligue 1. Mais c'est fou, Toulouse et Amiens, c'est leur faute, tout est leur faute.
Mais pour
faute.
Toi, coach, c'est les entraîneurs aussi qui ont leur part de responsabilité.
Ouais, évidemment, dans ce qu'on a vu, il y a l'arbitrage dans les matchs retour, mais c'est, je dirais, une habitude. Quand on est le Barça, on sait très bien que dans un match retour on va être avantagé, on le voit depuis des années. Mais quand je regarde les éliminations de Paris Saint-Germain, sincèrement, je pense que
c'est pas la faute au rythme, c'est la faute à l'arbitrage, à l'entraîneur.
De notre Ligue 1, on peut le mettre après beaucoup de choses.
Je suis d'accord.
Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec Daniel et Eric.
Non, je dis ça dépend du classement qu'ils font, de l'ordre de l'importance. Mais dire que ça n'a pas d'importance, c'est impossible, parce que
ça tombe très bien parce que personne n'a dit ça.
Sinon, ça veut dire que la compétitivité n'est pas importante. Et un championnat, la compétitivité, c'est ce qui fait aussi que nos résultats en Coupe d'Europe sont catastrophiques depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, il suffit de regarder les chiffres.
Mais ça, personne n'a dit que la Ligue 1 était un championnat relevé non plus.
Donc forcément, ça a une incidence.
Il y en a qui disent que ça fait partie des 5 plus gros.
Oui.
On s'est inventé. Le problème, c'est qu'on s'est inventé un classement à 5 pour pouvoir se mettre dedans.
Ouais, c'est ça.
Oui, ah bah nous, si on était 6e, on dirait qu'on est dans le top 6. Ouais, c'est meilleur.
Exactement.
On est dans le top 6 des meilleurs.
Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette position au top 5, ça encore, ce sont les chiffres qui le disent. Cette position, elle n'est due aux victoires du PSG dans les matchs de poule de Ligue des Champions et au peu qu'elle fait en Ligue des Champions. Si tu enlèves le PSG, déjà tu leur dégringoles à la 6e place. Si tu enlèves Lyon, bon, alors là t'es carrément dans les oubliettes absolues.
Ah bah oui, mais si tu comptes que sur Amiens et Toulouse, effectivement que t'es derrière l'Albanie.
Non, mais il y a pas que deux équipes qui font les points en Coupe d'Europe. Ton indice UEFA ne tient qu'à la présence, qu'à ce que fait le PSG, et dans un second temps.
Oh, l'OM, respecte l'OM qui a été en finale de Coupe d'Europe.
Si t'enlèves le Bayern et Dortmund en Allemagne, je ne sais pas ce qui reste non plus.
Fais les comptes des points, regarde les classements UEFA, c'est tout con à faire. Hein.
D'accord,
faites les calculs. Est-ce que l'OM, ils ont fait finale il y a deux ans, c'est très bien, mais l'OM aujourd'hui, regardez leur position au classement UEFA et l'indice, vous verrez que.
Bah,
que
non, ça me fait trop peine.
Mais tu sais que je trouve ça assez exceptionnel, Daniel. C'est-à-dire que tu as été le premier à être dur avec le Paris Saint-Germain parce qu'il le méritait quand ils se sont fait éliminer.
Mais bien sûr, je le suis. Non,
mais là, de sortir des excuses comme ça à Verratti, à Thiago Silva. Mais si! Même à Pastore, tu rencontres que Pastore, le mec, il a fait deux matchs en 5 ans et il te sort
rien,
ça comme excuse. Mais si, ne mets pas ça devant, c'est trop facile, Daniel. Ne leur mets pas ça au visage, ils vont s'en servir, c'est trop facile. Surtout, ne fais pas cette erreur de donner cette arme aux joueurs.
Alors, Christophe, le problème, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que les joueurs sont justement dans la négation. Alors là, justement, je ne vais pas du tout dans leur sens. D'abord, je ne leur ai jamais rien excusé, et tu le sais. Mais alors, détrompe-toi, parce que les joueurs, eux, sont dans la négation de cet élément-là. Si tu parles, justement,
d'ailleurs,
eux nient, parce que si tu dévalues la valeur du championnat, c'est comme si tu dévaluais leur titre. Et eux, ils sont tellement dans leur quotidien.
Tourelle est là-dedans aussi.
Absolument. Mmh. Eux, ils ne veulent pas entendre parler, justement, de cet argument. Donc,
ils partent tous, c'est ce qu'ils font. Ils bras, ils ont tous fait ça.
C'est bien leur faux curie. C'est bien l'hypocrisie générale, Christophe, qu'il faut dénoncer. C'est que quand ils s'en vont, ils disent la Ligue 1 c'était de la merde, mais quand ils y sont, pour ne pas dévaluer leur titre, ils disent c'est formidable, machin. Il faut entendre tous les discours, c'est beaucoup plus nuancé. Et moi, justement, je ne le fais pas comme une excuse et je ne le mets pas en numéro 1 du classement. Évidemment que quand tu regardes les matchs, je ne suis pas con, Roland, quand tu parles Barça, Manchester, c'est pas l'élément numéro 1, bien sûr que non, c'est pas l'élément numéro 1, loin de là. Mais il faut tout expliquer, il faut donner un panorama complet de notre football pour tout comprendre de nos défaillances.
Au moins Neymar, il a une qualité, il dit que c'est de la merde depuis le début. Et à tout le monde. Tu vois, moi je respecte ça. Oui, c'est un mec qui est honnête.
Alors, il faut tout analyser.
On va en rester là sur le débat.
Quand Tanguy Kouassi, il dit que c'est de la merde, il s'en va.
Ah non, alors Tanguy Kouassi, il voulait la stabilité.
Ah ouais,
c'est pas pareil. Il reste en Ligue 1 puisqu'il va aller à Rennes. Il reste en Ligue 1.
Il va au Bayern.
C'est l'info qu'on a sortie il y a une heure là, avec Loïc Tanzi. Il va au Bayern.
Bah, voilà.
Finalement, au Bayern. Titulaire, comme ça, il est plus titulaire au Bayern.
Donc il va au Bayern parce qu'il reprochait au PSG
la stabilité.
l'éventuel temps de jeu et tout. Et il
non,
va
c'est pas le temps de jeu, Daniel, c'est la stabilité. Les infos de Loïc Tanzi. Voilà.
Oui, bah, parce que Loïc m'avait dit il y a deux jours que dans les arguments, c'était pas la stabilité venait après le temps de jeu et après le projet. Enfin bon, bref.
Ah bah hier, il nous a expliqué.
Il m'a dit le climat comptait aussi. Le climat important.
Et la nourriture.
Un trop instable, le climat. Un coup il fait pas beau, un coup il fait beau. Moi, hier, il fait pas beau.
C'est ça.
C'est stable.
Alors. Non, mais tu vois, alors, pour résumer, si par exemple, on donne le niveau du championnat français en cinquième position, ok. Mais de la façon dont a été éliminé le Paris Saint-Germain 3-4 fois, je pense qu'il faut chercher autre chose que cette explication.
Ah, mais évidemment, il y en a tellement d'autres, on en a parlé mille fois, Roland, on est d'accord, évidemment. Évidemment qu'il y a
un élément,
il y a tout ça, bien sûr.
Il y a un élément qui s'en va.
Le match retour, je pense que l'exemple numéro un pour moi, par contre, c'est Manchester. Là, sincèrement, surtout, ne parlons pas du niveau de notre championnat. Quand tu gagnes 2-0 en faisant un super match à l'extérieur et que tu perds chez toi contre
attention, l'équipe, Roland,
l'équipe B de Manchester.
Non, on est d'accord là-dessus, mais sur d'autres matchs, attention Roland, quand tu n'es pas habitué, quand tu ne défends jamais, quand tu n'es jamais réellement bousculé, même quand tu as pris un avantage dans un match aller, dans le match retour, si tu es un peu bousculé, si tu es confronté à des situations que tu n'affrontes jamais, à savoir le stress, la pression, l'équipe en face de toi qui a vraiment envie de te marcher dessus, tu sais plus comment faire.
Quand le PSG, ce qu'on a dit, c'est des internationaux, Daniel, ils jouent des matchs de ligue de
Il les joue pas, Christophe. Il les joue pas, les matchs dont tu parles.
Mais non, mais tu peux pas dire ça, Daniel.
Cite-moi les joueurs qui les jouent.
Tu peux pas dire ça. Ils sont pas habitués au stress. Tu rends compte de ce que tu dis?
Non.
Daniel, ils sont pas habitués au stress. Ils sont pas habitués à ci. Ils sont pas habitués à ça. Daniel, dis pas des trucs comme ça.
Christophe, cite-moi les mecs. Tu veux qu'on fasse l'équipe dans l'ordre? Est-ce que tu veux qu'on fasse l'équipe dans l'ordre? Est-ce que Thiago Silva?
Non, mais on est pas d'accord, Daniel. On sera trop loin du championnat.
Mais c'est pas qu'on est pas d'accord.
S'il vous plaît, pas tous en même temps.
Daniel, le championnat que tu connais très très bien. En Italie. Tu penses que la Juve, sauf les dernières années, qui se balade comme le Paris Saint-Germain se balade, il y a un problème pour eux de niveau de.
Oui, on peut citer le Bayern italien. Aussi. Hein, qui a,
enfin, quand ils jouent Naples, quand ils jouent la Lazio, il n'y a pas d'équivalent chez nous, hein, je crois.
Ouais, il n'y a pas d'équivalent, Roland. Déjà, ça, c'est la première.
Mais quand ils les ont eu, ils ont perdu. C'était Monaco, c'était Montpellier. Ils n'ont pas gagné.
Déjà, il y a des équipes en Italie qui sont supérieures. À ce qu'on a en Ligue 1. Et ensuite, je te signale qu'en Italie, ça a effectivement été un sujet, Roland, puisque tu dis que je connais ce championnat, et que la Juve, ça a été abordé, le fait que la compétitivité de la Serie A était également en baisse, parce qu'elle est en baisse sur ces dernières années, et qu'ils se baladaient trop facilement. Ouais.
Ouais, mais bon, ils vont en finale, ils vont en demi-finale.
Oui, mais le football en Italie, c'est pas le même. Les équipes sur le terrain, elles jouent pas comme en Ligue 1. Elles jouent pas toutes derrière, recroquevillées à t'attendre. Non, c'est ouais. Et le niveau des joueurs, il a rien à voir non plus. Après, moi, je veux bien qu'on n'ouvre pas les yeux sur notre niveau, mais après, les chiffres sont là et le montrent quand même. Hein. Au moins les chiffres, ça se discute pas trop. Quoi.
On le fait le constat sur le niveau, Daniel. On le fait le constat, on le partage. Mais je trouve qu'on brandit trop facilement ce truc du défaut de la Ligue 1. C'est pas un avantage, ça c'est certain. On est tous d'accord que ça serait un peu mieux de temps en temps d'avoir une petite piqûre de rappel, voilà, sur les joueurs. Mais après, est-ce que le coach est pas capable de le faire? Est-ce que un coach mental est pas capable de le faire? Est-ce qu'une préparation différente?
Christophe, c'est quoi les plus belles années de notre football au niveau des clubs?
Oui, je m'en fiche.
Bonne période dans l'histoire. Bah, pourquoi tu t'en fiches?
Parce que je m'en fiche de ça. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, voilà, le Paris Saint-Germain, ils ont des joueurs de top niveau mondial. Ils sont pas capables de se bouger un petit peu le cul quand c'est des matchs importants. Et après, quand ils partent,
pas ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je veux pas. Je n'écarte aucun dossier. Mais
ils ont des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont des mecs qui ont gagné la Coupe du Monde. Bon.
Mais ils ont qui? Mais ils ont un mec qui a gagné la Ligue des Champions. Ils ont Di Maria.
Et
Neymar qui vient d'arriver.
Navas, il a gagné la Ligue. Il a gagné la Ligue.
Navas, il vient d'arriver. Qu'est-ce que tu l'emmerdes,
Navas? Eh bien, alors, c'est très bien. Eh bien, on ne leur cherche pas d'excuses. C'est bon.
Mais ils ont
Neymar,
pas ils
il
sont
a gagné
passés,
Barcelone,
gars,
Neymar.
Du gars, tu es au courant, que
non, mais
tu t'énerves alors
débat,
qu'ils sont en quart. Mais Navas, il n'y a rien à voir, il est qualifié.
Oui,
mais
moi je dis que ça ne peut pas être un hasard que la seule décennie où nos clubs ont présenté un beau visage en Coupe d'Europe, c'est la décennie où notre championnat était le plus relevé, où il y avait des équipes et un championnat de qualité. Je dis que ça ne peut pas être un hasard.
Vu les éliminations du Paris Saint-Germain ces dernières années, sincèrement, dire que c'est une raison importante, je trouve ça assez incroyable.
Voilà, prends-la comme si... tu veux la raison, mais ouais. Tu peux pas nier que c'est une raison importante.
Et moi, je
le
dis un jour
dans lequel sont enfermés les Silva, Verratti, tous ces barons que tu dénonces d'ailleurs. On est d'accord là-dessus.
Oui,
on les
oui,
dénonce les baronniers et le confort.
Oui, mais Daniel, tu devrais pouvoir sortir du confort sans parler du niveau de la Ligue 1.
Je réfléchis en même temps, ça m'arrive. Ouais. Liverpool, qui a 25 points d'avance sur le second, eux, ça leur pose aucun problème de jouer
ces matchs-là. Ils sont éliminés cette année, je te rappelle. Hein.
Oui, ils se sont fait sortir.
Voilà. Enfin, 25 points d'avance. Ils sont... Ah oui, mais rigole pas. L'année où ils ont 25 points d'avance, ils sont éliminés.
Mais justement, c'était pas un piège, mais je vous attendais.
Et c'est
parce que c'est le niveau de la Ligue.
Eh ben parce que tu t'endors au bout d'un moment. Eh ben tu t'endors.
Ah alors les pauvres.
Eh ben voilà. Wow. T'as pris un exemple. C'est... Ah là, on t'a eu.
Il faut mettre dans ses clubs. Il faut mettre Pascal le grand frère. Il va leur mettre des tartes dans la gueule tous les matins. Ça va les réveiller.
Il est pas assez payé.
D'accord.
Bon, okay. Allez. Et là-dessus, alors là, en revanche sur ce point, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est Daniel peut-être.
On a besoin.
Toi,
on a besoin.
Moi, je te mettrai.
On a besoin, Christophe, de parler de motivation ou, comme tu dis, de tartes dans la gueule ou de coups de pied dans le cul. Ça, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça lamentable. Mais le confort. Mais toi, le premier, combien de fois on a parlé du confort dans lequel les mecs du PSG étaient endormi à cause des dirigeants qui les remuaient pas assez, de la République des joueurs et du fait qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ça rejoint, mais tout se rejoint en fait. Tout se rejoint parce que le confort dans lequel le président les installe avec ses énormes salaires, ce confort-là, après le dimanche, tu n'en sors même pas parce qu'en plus tout le monde te regarde avec des yeux écarquillés. Les mecs, ils viennent te demander des maillots à la mi-temps. C'est un tout. Mets l'ordre que tu veux, mais c'est un tout très intéressant à analyser.
Et Dugas, le problème, c'est pas Pascal le grand frère, c'est qu'ils avaient gardé trop longtemps Silva la petite sœur. C'est peut-être ça le problème. Fallait virer la petite sœur, surtout.
Bon, je te souhaite que l'année prochaine, ils gagnent la Ligue des Champions.
L'année prochaine, cette année.
Au mois d'août.
Thiago Silva va jouer.
Thiago Silva, il est plus titulaire et on est passé à cause de ça.
Et puis, ça vaudra rien, cette Ligue des Champions, il n'y a pas d'aller-retour.
T'es sérieux? Philippe Premier devant le Real Madrid, au bas d'Orkmund. Oui. Il y a des gens, ils étaient champions d'Europe en bataille avec l'Endoran, ça match nul contre Glasgow, frère. T'es sérieux ou quoi?
Oui, mais non.
Et ça compte pas, nous.
Non, mais on le fera plus tard, ce débat.
Quel salaud, t'es un enfant.
Faudrait déjà que Paris gagne pour faire ce débat.
Et laisse-moi rêver. Je prends l'accent, moi.
Je sais pas. T'as été dans une phase.
Pas bien du tout.
Alors, et si on se faisait un petit France-Allemagne 82? Polo Breitner nous rejoint, notre spécialiste du foot allemand. Salut, Polo.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir tout le monde.
Salut Polo, bienvenue.
Bon, je te fais pas réagir à notre débat, c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'ai un
peu. Il y a un super match en ce moment important pour Mönchengladbach qui mène 2-0 face à Wolfsburg. Paradoxalement, c'est Wolfsburg qui a les plus grandes occasions. Et Mönchengladbach fait la bonne opération pour l'instant et mettre la pression sur les Leverkusen.
Sans Pléa ni Thuram.
Ben Sebaini, oui, c'est surprenant. Et sans Ben Sebaini suspendu. Donc, c'est vraiment intéressant.
Alors, France-Allemagne 82. Nous allons donc tout de suite faire un saut dans le temps. Le 8 juillet 1982, deuxième demi-finale de la Coupe du Monde en Espagne. Donc, tout le monde a évidemment cette rencontre en tête. Moi, j'ai une première question pour ceux qui étaient nés à l'époque et qui ont suivi ça avec attention. Donc, Daniel.
Nous tous, sauf toi, en fait.
Je sais pas. Oui,
t'étais pas né, Jean-Louis, sans déconner ?
Non, j'étais pas né, non.
Merde.
Ouais, désolé.
C'est fou.
Non, mais alors, la question est... Est-ce qu'à l'époque...
T'as tout raté.
Donc toi, tu détestes pas les Allemands. Tu fais partie de ta génération.
J'adore les Allemands, moi.
Ah ouais, d'accord.
Ma femme est franco-allemande.
Mon Dieu. Coluche avait raison.
Oui, sur quoi?
Il disait, regarde, même les Allemands, ils veulent plus faire la guerre. T'as qu'à le voir de quelle merde on est.
Bon, moi j'ai une question. Est-ce que... parce que j'ai regardé un peu le parcours, évidemment. Et on se rend compte quand même que la France a un parcours de rêve jusqu'à cette demi-finale. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc il y a deux phases de poule. La première...
Ça ressemble à nos parcours depuis une dizaine d'années.
Exactement. Et je voulais savoir si ça, on en parlait à l'époque. Parce que donc, il y a première phase de poule où on termine deuxième derrière l'Angleterre. La seule victoire, c'est contre le Koweït. Deuxième phase de poule poule, on tombe dans un groupe avec l'Autriche et l'Irlande du Nord, alors que l'Italie tombe avec le Brésil et l'Argentine, et l'Allemagne avec l'Angleterre et l'Espagne. Donc c'est quand même autre chose.
Rappelons que Deschamps n'est pas le sélectionneur. Hein,
la question, c'est est-ce que j'ai une réflexion de jeune con, ou est-ce que c'est vrai?
Non, c'est vrai.
Voilà. Alors, déjà
non, mais dans nos discussions. Pardon, vas-y.
Vas-y, Daniel.
Non, j'ai déjà dire qu'on parlait ou on parlait pas. On est dans une époque où on ne parle pas de foot.
Oui, c'est vrai. Oui.
Personne ne parle de foot. Tu vois le match à la télé, il est commenté, ça se termine, au revoir tout le monde. Il y a pas de commentaires, il y a pas d'analyse, voilà. Donc le parcours, le groupe de base, il est difficile parce que t'as l'Angleterre et la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie à l'époque, la France gagne pas à tous les coups contre ce genre de pays-là.
On fait match nul.
Le Koweït, effectivement, c'est l'équipe facile du groupe. Et d'ailleurs, la France, au départ, on se dit pas forcément qu'elle sort du groupe, elle se prend une tôle contre l'Angleterre. Hidalgo change tout pour le match suivant, et contre la Tchécoslovaquie ça fait un partout avec Amoros qui sauve sur sa ligne un deuxième but tchèque qui nous aurait éliminé dès le premier tour. La deuxième petite poule de trois, effectivement, là, c'est un bon tirage parce que de l'autre côté, t'as eu des équipes qui n'ont pas, tu sais, comme souvent, répondu aux attentes et tout. Et oui, le groupe de l'Italie, Brésil, Argentine, c'est plus compliqué.
Parce qu'on aurait dû avoir l'Italie, normalement.
Avec Allemagne, Angleterre, je crois que c'est Allemagne, Angleterre, Espagne. Allemagne, Angleterre, c'est plus compliqué. T'as le groupe avec URSS de mémoire, Pologne, Belgique, je crois, c'est pareil. Et nous, on est avec Irlande du Nord et avec Autriche. Effectivement, là à ce moment-là, t'es plutôt verni en ayant fait deuxième de ta poule.
Donc t'arrives dans ce match-là sans énorme référence, hein, vu les équipes que t'as battues. Mais bon, c'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Je vous redonne la compo, même si je sais que vous l'avez tous en tête.
Ça c'est par cœur, ça.
Jean-Luc Piedori dans les buts.
Coach, bien sûr. On est obligé d'insister sur ce qui se passe d'entrée, puisque je m'en rappelle dans les commentaires et ça m'a permis moi aussi dans l'analyse de voir que finalement une préparation d'un tournoi aussi important qu'un championnat d'Europe et qu'une Coupe du Monde. Bah écoute, oui, c'est sûr que c'est important, traditionnel, match amicaux, d'accord. Mais quand on voit que l'équipe de France se prépare, quand on se prend une droite dans la gueule contre les Anglais, c'était à Bilbao. Dans ce match-là, on n'est même pas mauvais, on est ridicule. Et qu'on change 4 ou 5 postes qui sont les postes les plus importants de notre équipe, avec des inventions. Jean Vion qui joue stopper, n'en a jamais joué de sa vie. Là, ça me fait, moi, regarder en tant que passionné, en disant, putain, on va quand même pas faire une bonne Coupe du Monde avec ce qui vient de se passer. Eh ben oui, tu vas presque au bout. C'est quelque chose. Et ce fameux carré magique, avec toute l'affection et la sympathie que j'ai pour Hidalgo, ben il y est pas au départ, le carré magique. Il se construit tout seul.
Effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a tous ces changements.
Hidalgo qui le met, ok, c'est sûr.
C'est vrai qu'il y a tous ces changements avec le match de l'Angleterre, le premier match. Alors contre l'Allemagne.
Excuse-moi, mais le carré magique, avant que tu le vois chez Deschamps, il peut se construire tout seul. Il peut y aller longtemps.
Hein. Ah, il y a un carré magique.
Là, tout seul, déjà, ils sont pas là déjà. Ils sont même pas dans le groupe, les mecs.
Deschamps, le carré magique, c'est juste déplacé en défense. Ouais, voilà. 4 défenseurs.
Ils sont magiques. Ils sont carrés. Ils sont magiques.
Alors, j'avais même opposé cette formule. Deschamps, lui, il construit toujours un carré solide. C'est les deux défenseurs centraux et les deux qui sont devant.
Ah oui, avec Mbia et Diarra, là, à l'époque.
À l'époque, à l'OM, et même en équipe de France, tout le temps, lui, ce qui lui importe, c'est un carré solide.
Ouais.
C'est de plus en plus un octogone. Hein.
Ouais, moi, j'allais dire un hexagone avec les latéraux, mais t'as raison.
C'est un octogone avec deux mecs qui se démerdent devant.
Alors, l'équipe de France, la compo. Donc, Jean-Luc Ettori dans les buts. Une défense Amoros, Bossis, Janvion, Trésor. Et c'est vrai, par rapport au match de l'Angleterre, Christian Lopez était.
Trésor dans
titulaire.
L'axe. Hein, parce que, comme tu l'as annoncé, on a l'impression qu'il était latéral.
Trésor, Janvion dans l'axe, Bossis, Amoros sur les côtés. C'est ça? Donc, le carré magique, première génération, avant que Luis Fernandez n'arrive dedans. C'est donc Gengini, Platini, Gires, Tigana. Contre l'Angleterre, toujours pour faire plaisir à coach, il y avait René Girard titulaire, Jean-François Larios également. Ouais. En attaque donc contre l'Allemagne, Rojo et Six contre l'Allemagne, et Soler était titulaire avec Rojo contre l'Angleterre. Donc effectivement, il y a des changements. Bon, en même temps, ça fait partie aussi de l'histoire de beaucoup d'équipes de France. Et l'équipe qui se construit au fur et à mesure de la compétition, voilà.
Sauf que là, on n'avait pas. Le truc, c'est que là, il y avait zéro expérience. Parce que la Coupe du Monde 78, tu étais allé un peu en mode découverte, et puis tu tombes dans un groupe tellement compliqué avec l'Argentine et l'Italie, tu sais que tu vas jamais sortir. la Coupe du Monde 82, tu arrives sans référence, tu n'as pas fait l'Euro 80. Toi, c'est pas comme bien aujourd'hui sûr, ouais. Où toi, tu dis oui, mais on a l'habitude de transformer en cours de route. On avait l'habitude de rien du tout. On était là, on se disait, mais où ils vont? Comme a dit Roland après le premier match, je dis, bon, c'est fini, on va rentrer à la maison. Quoi.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va arriver sur le match, mais ce que je vous propose, on fait la pause maintenant et on fait le match dans un instant avec en plus Polo. Oui.
Tu peux dire RFA, parce qu'à l'époque, c'est la RFA et ça compte.
Oui, c'est vrai.
C'est toujours RFA. La RFA.
Toujours aujourd'hui. Oui, je croyais que c'était toujours la RDA quand je te regarde. Moi.
Allez, c'est toujours une République fédérale.
A tout de suite pour France RFA.
RMC, 18h20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Les amis, 19h29, Tim Dugas continue avec Roland Courbis, avec Julien Cazard, avec Daniel Riolo, avec Paulo Breitner, avec Jean-Louis Tour, que du beau monde. Bon, aujourd'hui, on continue de parler de ce fameux match France-Allemagne de 82.
Exactement. T'étais où, Dugas, à l'époque?
J'avais 10 ans, j'étais chez mon grand-père pour voir la finale. 10 ans, mes premières pleurs, effondrées.
Ah ouais, comme nous tous.
Ouais, comme une fillette, ouais, tout, ouais, c'est compliqué.
Alors, je précise que tout le monde a le droit de pleurer, même les garçons, Dugas.
Sauf que filles. Moi, j'ai jamais vu une fille pleurer autant que moi ce jour-là.
Ouais, mais là, voilà, je pleurais vraiment.
Vous pleuriez beaucoup à chaud de larmes, très bien.
Voilà,
pas de problème.
Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit là.
Hashtag.
On ne sait jamais. Ouais. Voilà. Donc, chacun se souvient d'où il était, j'imagine.
Ah, bah oui.
Et Polo, t'étais où, toi?
J'étais au Lavandouille, on n'avait pas la télé, j'avais demandé à la reine-mère si je pouvais aller au troquet du coin pour aller voir le match. Et j'étais à la même place en 1982 et en 1986, et je n'y suis plus jamais retourné.
Est-ce que tu étais heureux comme une jeune communiante ou pas?
Ah non, à l'époque j'étais à fond derrière l'équipe de France. Je pense que quelqu'un qui a vécu France-Allemagne 82, il n'y a pas plus beau, parce que c'est pas qu'une question de football, et que tout ce qui est arrivé après, pour moi, c'est de la rigolade en fait. C'est-à-dire les titres mondiaux de la France de 98 et 2018, par exemple, pour moi ne m'intéresse plus du tout. 82, pour moi, c'est un summum de l'équipe de France. En tout cas, c'est une image de la France pour moi. Donc le reste derrière, la France qui gagne, ça m'intéresse plus.
Ah, très bien.
Voilà. Par contre, t'expliqueras aux Allemands ce genre de mentalité.
C'est justement le
gars, tu n'intéresses pas Polo. C'est ça que je retiens, moi. Ouais,
ouais. C'est la grande leçon.
C'est-à-dire que t'as aimé la France en 39, en 45, bof.
Mais non, c'est...
Bon, alors, on y va donc pour le match. Bon, alors, évidemment, vous avez en tête tout ce qui s'est passé, mais quand même, on va se remémorer tout ça. L'équipe de France qui débute pas bien la rencontre. Lidbarski qui va ouvrir la marque. Ah, j'ai pas donné la compo allemande. Polo, peut-être que tu peux.
Alors, deux têtes, Schumacher dans
le jeu. Je l'ai sous les yeux,
droit.
Mais.
Côté droit, Manfred Kals, évidemment, les frères Förster, Briegel, décathloniens. Milieu de terrain, Dremler, et il m'en manque un comme d'habitude, Stilicu, excusez-moi. Ouais. Et puis le milieu de terrain
offensif, c'est Breitner. Stilicu est en charnière centrale.
Il est en charnière centrale, excuse-moi.
Stilicu, ouais.
Et comment ça s'appelle, il y a Breitner qui est meneur de jeu, ce qui est quand même très paradoxal, oui. Alors que c'est un arrière de formation. Et les trois de devant, Magat, Lidbarski et Klaus Fischer, puisque Rummenigge est blessé.
Félix Magat, ça c'était un joueur.
Exactement, ouais.
Et d'ailleurs, on voit le côté très très défensif des Allemands.
Ah oui, ça c'est très défensif. Rummenigge remplaçant déjà, c'est balèze.
À l'image de Breitner. Ouais, non, Rummenigge il est blessé. Et d'ailleurs, quand il rentre, il est quand même décisif tout en étant blessé.
Ah oui.
Exactement.
Il est décisif et il remet son short.
Ouais.
Et il y venait, les gars. Calme,
l'image,
hyper
l'image
calme.
De Rummenigge, ouais. Qui marque et qui remet son short, elle restera pour moi dans ma tête. Moi,
Daniel, c'est marrant parce que c'est l'image où lui, il est calme, il s'énerve pas, il marque et il dit, avec le geste de la main, il fait venez les gars. Allez, il y en a un autre à mettre.
C'est ça.
Alors, l'impression de voir Jordan.
Il fait ça et il remet son short. Genre, je suis super.
Vous êtes allé un petit peu vite quand même. Avant donc que Rummenigge marque en prolongation, il s'est passé 2-3 trucs avant.
Ah oui.
Donc, Lidbarski ouvre le score à la 17e minute dans cette rencontre.
Il fait tourner sa gourmette là après avoir marqué. Ça m'a marqué.
Avec un Ettori pas génialissime. D'ailleurs, pendant un peu toute la Coupe du Monde.
Ettori. Il n'y avait pas une histoire d'ailleurs autour des Ettori? Non.
De quoi?
Qu'il était nul, c'est une belle histoire quand même. Hein.
Non, mais pourquoi il s'est retrouvé titulaire? Non,
ah, mais parce qu'il y a eu la grosse embrouille avant la Coupe
avec Baratelli.
Du Monde, avec Baratelli et d'Hidalgo. Et après, parce que la légende. Mais alors, ça, Roland doit le savoir mieux que moi et on en a parlé mille fois ensemble. Mais il paraît que pendant la préparation, Ettori a été. Mais, d'abord, Ettori était un super gardien à Monaco, il faut le dire. C'était un très très bon gardien qui, en plus, était bon sur les pénaux. C'est dire si pendant la séance il a déçu, à jamais bouger.
Ah oui.
Mais en fait, il paraît qu'il a fait une préparation monstrueuse et qu'il s'est imposé comme titulaire.
D'accord. Mais Daniel, sur les pénaux,
parce que sinon Castaneda devait être le titulaire. Castaneda, Saint-Etienne, il était bon.
Il fait, il fait une préparation extraordinaire, mais il fait une saison extraordinaire. Parce que tu me
absolument,
demandes
absolument.
Où on était, on est en 82, on est champion avec le dernier match contre Strasbourg, le but de Barberis sur un centre de Bellone. Mais ce que fait Ettori pendant ce championnat, c'est tout simplement époustouflant. Et là, il arrive en troisième position, mais aux entraînements, il continue. Les matchs de préparation, pareil. Tu as l'impression que c'est très difficile de lui marquer un but.
Oui, alors que c'est pas du tout l'impression qu'il donne sur ce
match. Il fait le premier match contre l'Angleterre, il est aux fraises.
Ah ouais.
Il fait une Coupe du Monde très, très moyenne. Et d'ailleurs, après ce premier match, je crois que Hidalgo hésite de le maintenir ou pas, puisque ça fait déjà beaucoup de changements si en plus il change Ettori.
Absolument. Et Roland, et c'est vrai que tu as raison, ce premier match où la France est catastrophique, mais Ettori, mais je me souviens là pour le coup du peu de commentaires qu'il y avait, mais il avait fait peur. Le but, quoi. Roland, toi qui aimes bien les sorties de gardien sur le but de Robson, là, mais on dirait un gardien de poussin qui joue contre des pros. C'est incroyable.
Moi, je me rappelle très bien de la presse de l'époque. De la presse de l'époque après l'Angleterre. La France disait on s'est pris notre raclée face à l'Angleterre, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est la France de l'époque. On n'était rien.
C'est vrai.
Et en fait, la défaite contre l'Angleterre, elle était logique. Enfin, logique par rapport à notre histoire.
La défaite contre l'Angleterre, c'est le premier match. Hein. Et donc là, on est sur la demi-finale contre l'Allemagne. Donc Lidbarski ouvre le score, 17e. Platini sur pénalty égalise à la 27e.
Attention, sur ce péno, il faut dire faute de Karl-Heinz Forster sur Dominique Rocheteau. À l'époque, les Allemands, et notamment Forster, prenaient toujours le 9 en marquage. Et les mecs qui ont pris le dessus sur Forster, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas des mecs.
Mais vraiment pas beaucoup. C'était un stopper, mais énormissime. Il y a Paolo Rossi qui mettra un but en finale. Mais avant ça, le 9 avec Forster, il ne voyait pas beaucoup le jour. Hein. Ouais. Et il a fait faute quand il ceinture Rocheteau. Il obtient le pénalty qui est transformé par Platini. Ouais.
Platini, sur ce match-là, c'est le grand Platini ou on attendait un peu plus parfois?
Non, le bon Platini, mais pas le grand Platini.
Moi, j'ai pas.
Il est toujours à la manœuvre des actions. Il est bon sur cette Coupe du Monde. J'irais, c'est je pense un peu au-dessus.
Ouais.
D'ailleurs, je crois qu'il terminera même devant lui au classement du Ballon d'Or à la fin de l'année. J'irais, c'est très très bon. Mais Platini, oui, il est là quand même. Pour moi, c'était quand même le boss de l'équipe. Hein. C'était vraiment lui le patron.
Ah
bah quand même.
Oui. Ah bah ça va se voir sur les attitudes.
Tigana fait une grosse Coupe du Monde aussi.
Ouais. Mi-temps un partout, donc dans cette rencontre après l'égalisation de Platini, et puis arrive donc l'épisode Schumacher. Même si juste avant il y a quand même déjà des prémices avec des contacts, parce que donc il y a l'arbitrage de Monsieur Korver, le Néerlandais, qui va être beaucoup remis en question, notamment par les commentateurs de l'époque, hein. Parce qu'il y a quelques actions un peu litigieuses où en gros on sent que Harald Schumacher, le gardien de but, laisse traîner tout ce qui peut le laisser traîner
chaud,
à chaque fois.
Il est bouillant, Schumacher.
Ah, c'est pas avant le problème, enfin, le choc avec Batiston, il y a quand même deux trois comportements où tu vois qu'il faut pas le chatouiller.
Exactement. Et on le verra donc avec cette action pour Batiston. Batiston qui se retrouve donc en position d'avant-centre, en face à face.
Ouverture de Platini.
Exactement. Alors Batiston qui sera rentré à la place de Gengini à la 50e. Hein. Et donc Batiston qui se présente tout seul sur cette belle ouverture effectivement.
Il rate son grand pont. Hein. On peut dire qu'il rate son grand pont.
Disons que la prise d'appui est compliquée.
Il a fait un grand pont à la Lady Di.
Oui, parce que. Alors, si c'est un, je sais pas si c'est un grand pont, il veut dire.
Non, il pousse le bal parce qu'il arrive le premier puis il se fait déglinguer. Hein.
D'ailleurs, les Roland.
Tu crois pas qu'il veut tirer, toi?
Non, il est en extension. Il est en extension. Il essaie d'avoir le premier la balle. Peut-être, tu vois, pour essayer d'aller de continuer avec le ballon, mais il tire pas.
Et après, effectivement, il se fait découper par Schumacher.
Mais quand il se fait découper Schumacher, pour moi, il ne sait pas qu'il n'y a pas but. Il pense qu'il y a but. Et sur la lancée, il s'est laissé aller, mais avec la haine et la méchanceté de se dire bon, allez, il y a but parce qu'il est lobé. D'ailleurs,
il passe pas très loin.
Et donc, sur la lancée, tu as marqué, tiens.
Je pense que...
Oui, Polo, je crois qu'il y a Polo une théorie sur le
Non, non, mais c'est dingue parce qu'en fait, ça, c'est la vision française. J'ai relu des livres. Pour préparer mon intervention, j'ai relu des livres de ce que disaient des journalistes de l'époque, etc. Et en fait, eux considèrent qu'il n'y a pas faute de Schumacher sur Baptiste.
Pour moi, il ne le touche pas. Moi, j'ai vu une caméra qui montre qu'il ne le touche pas.
Moi, j'ai bloqué juste sur un truc. Quelqu'un a lu un livre avant de préparer une intervention en team du gars.
Parlo, tu es d'accord avec eux ?
Ah mais moi je comprends par rapport au contexte de l'époque qu'il n'y ait pas rouille. En fait, ce qui choque en Allemagne, en fait, parce que quand même, il y a des choses qui sont passées.
Oui, à l'époque, il n'y avait jamais de carton rouge de toute façon. Hein.
Non, mais exactement, il n'y avait jamais de carton rouge. En fait, il n'y a même pas faute, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas carton jaune. C'est ça qui choque en fait les journalistes de l'époque.
Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a même pas coup franc.
Et je le dis et je le redis à chaque fois, vous faites de l'émotion sur cet acte. A posteriori.
C'est vrai qu'à l'époque, on n'en avait pas, je reconnais.
Vous êtes tous en train de regarder le ballon qui passe sur le côté gauche, des buts. Vous ne savez même pas qu'il y a contact entre Baptiston. Et c'est a posteriori qu'une fois qu'on a les ralentis, que vous voyez les choses.
Mais a posteriori, on voit que Zidane met un coup de boule, c'est pareil.
Je ne vois pas où tu veux en venir, Polo, en fait.
J'en veux que les gens, en fait, se trouvent des excuses par rapport à ce qui s'est passé a posteriori et pas sur l'instant.
Mais pourquoi ?
Sur l'instant, il est complètement KO, il sort sur civière. Enfin, tout le monde se rend compte de la portée.
Il avale sa langue, il lui pète dedans.
Oui. j'avais le sang glacé, j'avais 8-7 ans. C'est une des horreurs que j'ai. Moi, quand mon grand-père me disait il y a un méchant moustachu allemand depuis Polo, 30 ans, je crois que c'était lui, moi.
Si
j'essaie de te suivre.
Moi, je veux bien te suivre.
Mais tu dis quelque chose. Soit on peut répondre, soit tu vois. Je veux bien te suivre.
Ne parle pas de nous, sinon.
Si vous me demandez d'intervenir pour confirmer ce que la vision française.
Non, mais tu dis des choses sur la vision française. Tu nous mets en cause en disant vous voyez le truc seulement a posteriori en vous cherchant des excuses.
C'est pas vrai.
On peut répondre à ça quand même.
Mais non.
C'est exactement ça.
Non, mais quelle est la limite ? On ressorte toutes les petites interventions de Schumacher ou les limites sur le match en disant bon, là, il exagère, etc.
Mais cette action
prise indépendamment, comment tu peux dire que c'est une excuse ?
Prenez les contextes des matchs de l'époque. Prenez Maradona qui se fait assassiner à chaque match. Vous dites pas à chaque match, il y aurait dû y avoir rouge sur telle ou telle personne.
Mais bien sûr que si.
Vous faites de l'anachronisme historique.
Mais non.
Vous faites de l'anachronisme historique. C'est-à-dire que vous êtes en 2020.
Argentine-Cameroun, on n'arrête pas de dire que c'est un scandale.
Mais attends, je pensais pas que tu nous détestais autant.
Polo, ce que tu veux nous dire, Polo,
c'est que c'est aujourd'hui seulement qu'on parle de cet attentat et qu'à l'époque, on n'en parlait pas. C'est ça que tu nous dis?
Non.
Parce que dans le contexte de l'époque. Oui, traduit, Daniel.
Il faut rappeler le contexte de l'époque.
Effectivement, là, le point, je pense, où Paulo veut insister, c'est que sur le coup, évidemment, on se dit c'est aberrant ce qu'il fait, il y a faute et tout, mais c'est plus que dit Roland. Moi, je me souviens, il y a quand même coup franc, mais rouge à l'époque, ça n'existe pas.
Non, c'est vrai, on n'y pense pas.
Même Julien, quand tu dis le Argentine-Cameroun, si tu te remets, on était quand même plus âgés déjà en 90. Bon, moi, c'est quand on le revoit maintenant qu'on se dit, putain, c'est ouf ce qu'ils font, les Camerounais sur Maradona et
Kadija. Moi, ça m'avait marqué.
Oui, c'était marquant, mais à l'époque, c'était un peu commun de ce genre de truc sur les terrains. Quand des mecs se mettaient en tête de dessouder, et en plus, des exemples dans les années 80, il y en a plein. Rappelle-toi, Christophe a dû vivre ça, gamin, à Bordeaux, mais le match où Tigana se fait péter dans le Bordeaux PSV de 88, là, avec Van Tijlen, je crois, le néerlandais qui lui démonte.
Il avait un contrat d'ailleurs.
Il avait un contrat et tout. Ce genre de truc-là, exactement comme dans un Marseille-Bordeaux, quand Giresse était parti à Marseille et qu'il est revenu à l'Escure, où Carnotror a descendu tout le match, Giresse. Ce genre de truc arrivait dans le foot. Donc, avec le regard de 40 ans plus tard, ouais, ça fait rigoler et tout, comme le dit Polo. Mais
là, il y a 15 mètres d'élan.
Ce qui est ouf, c'est qu'il n'y a même pas coup franc. Là où tu te dis, mais monsieur Corvert, il délire ou quoi?
Mais pour ce qui est du carton rouge,
pour ce qui est de la méchanceté et tout, il y en avait sur les terrains à l'époque. Ouais. Franchement, il y avait des trucs de malade sur les terrains.
Non, mais c'est le coup franc qui est choquant. C'est le fait qu'il pose le ballon et que l'arbitre, il est à côté de Schumacher en attendant. C'est ça qui nous a marqué.
Il y a la violence du choc aussi. À l'époque, on en parlait quand même de tout ça.
Ça a pris des proportions énormes. Moi, tu me diras si c'est pas ce que vous avez ressenti. Moi, ce qui m'avait choqué, bon, j'étais que gamin, mais c'est de voir que Schumacher se désintéresse. Ça, c'est la violence. Il se désintéresse de Baptiston. Il a posé le ballon en attendant le 6 mètres. Et l'arbitre, il est à côté de lui et il attend aussi. C'est, oui, je te jure, ça, c'est en vrai encore plus choquant que la faute.
Et oui, je pense c'est que limite, ça rajouté, dégager.
Si Schumacher était allé le voir, ça va et tout, machin et tout, il y aurait peut-être eu un truc différent.
Oui, au moins, qu'il fasse au moins son faux cul, quoi.
Là, il y avait une froideur, mais qui était d'une.
Et parce que dans cette Coupe du Monde, je vous assure que ce que fait Gentile avec Maradona dans le Italie-Argentine,
ah oui, c'est
franchement,
violent,
ce match-là, il est. Ardiles se termine avec le maillot complètement déchiré. Maradona. Et le truc complètement dingue, c'est que Maradona termine avec le carton jaune, alors que Gentile ne prend même pas un carton jaune sur ce match-là. Ouais. Et dans le Argentine-Brésil, où les Brésiliens, les fameux poètes de 82, une des plus belles équipes de l'histoire, eh ben les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils mettent à Maradona et qu'est-ce qui se passe? Maradona se venge, rentre pied en avant dans un Brésilien, il prend carton rouge. Il prend carton rouge, ce qui était rarissime à l'époque.
Ouais, alors est-ce que c'est pas Batiston qui a fait faute? Voilà, Polo, c'est
non,
ça.
Non, mais non, le contexte, il est bon à expliquer. Il y avait des matchs qui étaient des trucs de sauvage.
Mais moi, je vous suis. Mais moi, là où je ne vous suis pas, parce que j'ai lu des trucs aussi quand même, c'est de dire qu'à l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste, cet attentat.
Non, c'est pas passé comme une lettre à la poste.
Je t'ai pas dit que c'était passé comme une lettre à la poste. Je t'ai dit que ce qui a choqué aussi en Allemagne, c'est le fait qu'il n'y ait même pas eu coup franc.
Ah bah, en fait, c'est ça.
Mais l'action en elle-même, d'ailleurs, on ne sait toujours pas si Schumacher a fait ça pour taper Batiston ou si, comme lui l'explique, il ne savait pas s'il pouvait se faire lober ou etc. Moi, je suis désolé. En Allemagne, je peux t'assurer que les journalistes, y compris les nouvelles générations, ne jugent pas le fait s'il y a faute directe volontaire. Le fait qu'il y ait faute, c'est une chose. Le fait, est-ce que c'est une action complètement volontaire pour flinguer Batiston, c'est beaucoup plus ouvert en Allemagne.
Et Jean-Louis, Batiston est rentré à la mi-temps à la place de qui?
À 50e, il remplace Gini.
Justement, voilà. Justement, Roland, d'accord. je voulais te parler de ça.
Oui, alors tu vas lui en parler dans un instant, mon cher Daniel, parce qu'on va revenir dans une seconde. Il y a encore plein de choses à faire sur le match.
Justement, sur les changements d'Hidalgo.
Ah bah, retiens ça et on pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Duga.
Tout RMC en podcast.
En podcast. Sur l'appli RMC.
Bah alors, Daniel, on peut la faire maintenant, ta question, donc, sur le coaching d'Hidalgo. Ah mais il est parti Daniel. Là il est parti manger son chocolat noir fleur de sel. Je le sais.
Ah bon, fleur de sel?
Ah oui, je pense, oui.
D'accord.
Oui, je connais les produits chez les Riolos.
Côte d'Or, c'est Lindt.
Lindt, je Lindt. Pense. Oui, je pense. Voilà. Bon, c'est pas grave. Bah, en tout cas, t'as eu la question, coach.
Il y en a deux de changement.
Deux, oui, exactement. Bah, c'est Batiston Tengini, ensuite Christian Lopez va remplacer Batiston. Voilà.
Et c'est deux défenseurs, arrière centraux ou latéral pour Batiston, il pouvait jouer les deux. Qui rentre au milieu, alors que sur la touche, il y a des milieux, que ce soit Girard, Larios. Donc ça, ce sont des changements surprenants.
Mais Batiston, il n'était pas presque plus technique que Girard. Peut-être que le profil technique.
Girard, on se trompe beaucoup par rapport au fait à la réputation de mettre des pinceaux, mais on est dans la même génération, je joue dans les équipes de jeunes avec lui, je peux te dire que techniquement, il était pas mal du tout.
Ouais. Oui, alors effectivement, c'est des changements plutôt défensifs. Voilà, c'est comme ça qu'on doit les interpréter à ce moment-là du match.
Défensifs.
Alors que tu as un peu la main, peut-être, non? Sur les Allemands à ce moment-là.
On est un partout.
Oui, on est un partout, mais non, on n'a pas l'impression qu'on domine à ce moment-là.
Moi, j'ai jamais l'impression qu'on ait vraiment la main.
Ok, même à 3-1.
Non, mais ouais, dans le score. Ouais. Mais je sais pas, Polo, toi, comment tu le ressentais. Mais...
Quand même. Alors, moi, je me rappelle très bien. La première mi-temps, la première mi-temps, en fait, est très, très équilibrée, voire un léger plus pour l'Allemagne, parce que Paul Breitner fait un match super, un excellent match en tant que meneur de jeu. Ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai le sentiment que la France prend l'avantage. Et évidemment, pendant les prolongations, la France est au-dessus.
Oui, prolongation, première prolongation, oui.
Alors, on arrive justement à la prolongation dans une seconde. On continue de détailler ce France-Allemagne 82, la demi-finale de la Coupe du Monde, le drame de Séville, etc.
Très bon, hein.
Allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, bonjour, Louis, on continue, 19h49, toujours dans le Team Duga, nous continuons à parler de ce fameux match France-Allemagne.
Exactement, France-Allemagne 82, demi-finale de la Coupe du Monde, Daniel Riolo est là, Julien Cazard, Polo Breitner, coach Courbis, donc...
Oh, là, ça claque.
Il nous reste que quelques minutes,
là,
malheureusement.
Là, je te le dis, là.
Donc, un partout, prolongation.
Ah bon?
Prolongation.
Ah, l'expression, j'adore.
Et la première période de la prolongation est magnifique pour les Français. Le but de Trésor, la reprise de volée, le but de Giresse.
Elle est surréaliste, hein, on n'y croit pas à ce qu'on voit. Hein.
À la prolongation, oui.
Ah, franchement, quand Trésor, il met cette volée...
En
là,
plus, les buts sont magnifiques.
Moi, je me dis, mais ça vient d'où?
Trésor, Thuram, Pavard, on est quand même le chic pour avoir un mec sorti de nulle part en défense qui met un but en demi-finale, quand même. Hein.
C'est vrai. Gires, donc 98e, marque le finale, but.
Umtiti.
À l'époque, Thierry Roland dit, c'est bon, on est qualifié. Jean-Michel Larquet lui dit, attendez un peu, Thierry, attendez.
Que j'ai pleuré.
Voilà.
C'est pas la France un pied en finale? C'est pas ça,
Oui, peut-être.
Non, c'est In the Pocket. Bah oui, c'est In the Pocket, là.
Ça,
non, c'est In the Pocket, c'était
la France a un pied en finale, c'est pas c'est normal de le dire. De
ah oui, sauf que Rummenigge est entré, effectivement. Ah. Et donc, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, il réduit l'écart à la 102e minute.
Et là encore, la défense est étourie dans la surface.
Jean-Louis.
Oui, Paulo.
Jean-Louis.
Oui.
Karl-Heinz, qu'est-ce que ça veut dire en français?
Charles-Henri.
Parce que quand
Charles
j'étais Jean. Petit. Si.
Charles quand Ketchup pour petit, moi. Mais...
Quand j'entendais Charles le mot Karl-Heinz, moi je me planquais.
Moi aussi, hein.
Moi, je me planquais. Et quand j'ai appris que ça voulait dire Charles-Henri ou Charles-Henriot en vieux François, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose.
Et pourquoi tu te planquais?
Et parce que Karl-Heinz, j'avais peur.
Ah, d'accord. Ouais, ça fait peur, Karl-Heinz.
C'est vrai qu'à l'époque.
Quand t'es gamin, quand t'as 8 ans, 10 ans, et que tu sais ce que représentent les Allemands. Et...
Ça fait plus peur que Mesut Özil. T'as Mesut Özil, t'as moins peur.
C'est vrai. Ou Horst.
Ah ouais.
Horst.
Non, excuse-moi. Parce
que Roubaix, le pire, c'était Hans-Peter Briegel. Ça foutait les jetons, Hans-Peter Briegel.
C'est décathlonien, mais t'as Gigi Lamoroso d'un côté et un décathlonien de l'autre. C'est extraordinaire.
Briegel, c'est pas seulement son nom que ça foutait les jetons.
Moi, Horst Roubaix, ça me fait peur. Je vous le redis quand même.
Roubaix qui est rentré aussi dans ce match.
Voilà, c'est pour ça. Exactement, la 73e. Donc, Rummenigge. Oui, ouais, quand.
Mais quand Rummenigge marque, c'est, je sais pas.
Là, vous dites c'est mort.
Moi, devant la télé, j'ai dit Moi, là, je me dis plus rien, je transpire et j'ai peur. J'en suis pas à me dire des choses à ce moment-là.
Oui, parce que Fischer, donc,
on a fait une Thiago Silva.
Klaus Fischer. Klaus Fischer, avec qui fait sa space.
Quel but il met quand même, hein, la remise de la tête.
C'est sa spécialité en plus.
Le retourné, il est un peu couché, il est un peu chelou quand même.
Ah, mais il est beau quand même. Et puis là encore, ce que fait Ettori et la défense sur le
surtout,
coup, là, mon
surtout.
Dieu.
Oh
là
là.
Ah oui. Mais Ettori, j'allais dire, va se rattraper dans la séance de tir au but. Pas du tout. Puisque on l'a tous en tête. Ettori qui.
Bah, il chope le premier quand même. Hein.
Oui.
C'est pas le premier. Dessus,
c'est le troisième, Stilicke.
C'est le troisième.
Non, mais c'est le premier qui rate. C'est, le, oui. C'est lui qui.
Ah oui, si oui, c'est vrai. À ce moment-là.
Le premier raté,
oui.
Il est allemand, oui, le premier raté.
T'as raison. Donc, en fait,
avec Gires Marc qui console le Stilicke en lui montrant le penalty raté de Six, je crois.
On n'a pas vu à la télé. Six, on l'a pas vu à la télé.
Kaltz et Breitner marquent leur penalty. Gires Amoros côté français. Stilicke rate le sien. Rocheteau marque. Donc, il y a 3-2 à ce moment-là. Normalement, souvent, tu pars bien comme ça.
En parlant d'Amoros, t'as oublié, à moins que je l'ai pas entendu, mais quand même, la frappe sur la barre.
Oui, exactement. Ah ouais. Non, je ne l'ai pas dit. Ensuite, ouais. Lidbarth qui marque, Didier Six rate, Rummenigge marque, Platini marque le sien, et ensuite Roubaix marque et donc Six,
rate. Tu sais ce qui lui tombe dessus, le pauvre Didier Six?
Bah, dis-moi.
Il jouait en Allemagne.
Ah oui.
Dans ce match, il est passé pour le collabo.
Ah, mais c'est vrai, j'ai plus souvenir de
certains,
ça.
Certains avaient dit, c'était horrible hein, ce qui se disait à l'époque, mais on était vraiment le.
Bah, c'était.
Il y avait, franchement, ça, plein de gens ont écrit des bouquins sur le fait que ça ressemblait à la guerre, que, évidemment, il y a plein de choses qui sont remontées autour de ce match-là.
Est-ce qu'on peut expliquer le contexte politique de l'époque?
Bien sûr.
Parce qu'on l'oublie complètement. En fait, évidemment, François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, et il y a une chasse aux sorcières dans les médias à l'époque, faut pas l'oublier. Et donc, vous avez une nouvelle génération de journalistes qui arrivent, évidemment de gauche, et eux sont beaucoup plus intéressés. Mais non, je suis très sérieux. Et eux, ces journalistes, ils sont en train de valoriser la RDA par rapport à la RFA, et y compris à la Fédération Française, puisqu'on va faire des stages en RDA pour échanger. Et donc la RFA, c'est devenu le mal ultime de ces Allemands super riches, etc., symbolisé évidemment par la sélection allemande. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait dit dans les journalistes, que moi j'avais été très choqué à l'époque, donc j'avais 10 ans, 11 ans, et je lisais beaucoup des choses comme ça, sur la façon violente dont on écrivait alors, sur l'équipe d'Allemagne de l'Ouest.
Polo, alors juste, moi je pense qu'il y a aussi les journalistes, mais pour les gens, la RFA, c'était l'Allemagne, alors que l'RDA, il y avait un côté, c'est l'Union soviétique. Donc, en fait, les vrais Allemands à détester, les Allemands de la guerre, c'était les Allemands de la RFA. Oui.
Bah, bien sûr. Oui,
mais on n'arrêtait pas. Il y avait des articles partout qui sortaient, comme quoi les Allemands, avec leur BM et tout leur pognon, c'était l'histoire du miracle économique allemand, arrivaient forcément dans le sud de la France, et ceci et cela, avec leurs oiseaux, leurs Deutschmark, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et tu avais beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et c'était beaucoup moins sur la RDA, évidemment. Et encore une fois, il y avait un contexte politique très important en 1981 qu'on a complètement oublié.
Heureusement,
il y
avait.
je ne vais pas citer un journaliste qui a eu un poste très important à l'Élysée à un moment, mais ce gars s'était excusé de ses articles quelques années après parce qu'il estimait qu'il consommait beaucoup trop de boulaouane. Hein. Ah, donc il faut
c'était voilà. Très intéressant, Polo. C'est non, pas pour c'est ça que Six a raté quand même.
Jean-Louis, oui, non, mais Six, je me souviens que ça lui est tombé dessus.
Ouais, hein, ouais, Bossis.
Non, Six. En ce qui concerne les pénalties. Pour ce qui est
de l'Allemagne, c'était Six.
Ah, c'est dit.
Oui, coach.
C'est là, qui joue à Stuttgart.
Il nous reste plus qu'une minute, hein, je vous le dis, avant mais de partir dans les grandes de thèses.
Ettori, que j'ai eu le plaisir de jouer avec pendant quand même 5 ans à Monaco, il avait une astuce, ou plutôt allez, ou une stratégie, ou
ils
une astuce
pas.
Et une stratégie, c'est que pour lui, un droitier, quand il tirait, ben, dans les stats et dans ses habitudes, c'était pas pied ouvert, c'était pied fermé.
Il croisait.
Donc, et il attend chaque fois que le droitier croise.
Parce qu'il a jamais croisé,
Sauf Stiliqué.
C'est lui qui sort.
Qui ferme le, et c'est celui qui l'arrête.
On n'a plus le temps pour le reste, messieurs. C'était passionnant.
Non, astuce, ça n'avait pas marché.
On a pris Polo, je suis désolé. Il n'y avait pas faute. On n'est pas vu.
Non,
rien.
Mais faute de Battiston sur Schumacher.
Et Roubaix nous a tués.
Chaque victoire n'est pas un gain. Chaque victoire n'est pas un gain. C'est la grande leçon allemande de ce match-là. C'est-à-dire, pour la première fois, les Allemands ont compris que le plus important, c'est pas de gagner, c'est d'avoir l'esprit du jeu. C'est un truc qu'on a complètement oublié.
Surtout que ce jour-là, ils avaient fait match nul.
En plus, c'est vrai. Et la France n'a pas perdu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir alors. Merci tout le monde. Merci Polo, coach Corbi, Daniel Riolo, Julien Cazard. Demain, Team Dugas revient à 18h. Le foot, c'est à 22h également avec l'after. Et dans un instant, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC, 18h-20h, Team Dugas.